Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Que c'est l'Orio Massarini, soutien à Redina Force.
Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'Étrange ce soir sur Sud Radio. C'est avec grand plaisir qu'avec toute mon équipe je vous retrouve une nouvelle fois. La voyance. Depuis l'aube des temps, l'homme veut lever le voile qui lui cache son avenir. Et depuis toujours, des hommes et des femmes sont connus pour développer cette faculté. Plusieurs d'entre vous l'ont même vécu de manière surprenante et se posent légitimement la question de savoir ce qui leur arrive et s'ils sont, n'ayons pas peur des mots, devenus fous. D'un autre côté, on est en droit d'attendre également de la part du monde scientifique un certain nombre de réponses sur ces phénomènes étranges. Eh bien, si la science à l'étranger se penche sur des voyants et des voyantes sans a priori aucun, il faut reconnaître qu'en France, c'est presque le désert. À part quelques scientifiques qui osent défier les tenants de la science dite officielle, ce type de recherche rencontre que des refus catégoriques ou des remarques ironiques du genre « Mon pauvre monsieur, vous perdez votre temps avec ce genre de bêtises » et encore, quand je dis le mot « bêtise », je reste poli. Ce soir avec moi dans Les Aventuriers de l'Étrange, une des meilleures voyantes françaises qui revient avec plaisir, j'espère, dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, Maud Christène, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous recevoir à nouveau chez nous.
Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
Alors, durant 2 heures, vous allez nous accompagner pour nous faire part de votre réflexion, de votre étude, parce que vous avez participé à de nombreuses expériences. Et vous allez répondre également aux questions que se posent les auditeurs et auditrices qui ont vécu comme ça ces phénomènes. Et c'est vrai que c'est troublant quand on vit ce genre de phénomène, qu'on s'aperçoit qu'on a lu quelque chose qui s'est passé dans le futur, enfin qui va se passer dans le futur. Avec vous également, Maud Christène, pour cette première heure, une réalisatrice écrivaine que vous connaissez bien, Marie-Monique Robin. Marie-Monique Robin, bonsoir.
Bonsoir, et bonsoir à Maud aussi.
Alors, vous êtes avec nous, Marie-Monique Robin, parce que vous êtes la réalisatrice et l'auteur d'un film intitulé Sixième Sens, un film dont nous allons parler abondamment tous ensemble pour plusieurs raisons. D'abord, il est programmé sur Arte lors d'une soirée théma, ce sera le dimanche 17 septembre. Il passera à 23h, ça c'est la première raison. Deuxième raison, il a pour thème l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Et enfin, troisième raison, Maud Christène est présente dans ce film et se prête volontiers à plusieurs expériences en Allemagne, aux États-Unis, notamment à Chicago, avec plusieurs scientifiques dans 2 laboratoires. Avec nous également le docteur Bernard Auriol, médecin psychiatre et membre de l'Institut Métapsychique International. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Vous êtes également un habitué des aventuriers de l'étrange.
C'est exact.
Je vous remercie.
Suis ravi.
Je vous remercie donc vous trois. Vous allez évidemment répondre aux questions de ceux et celles qui vont nous rejoindre dans cette émission. Alors, vous qui nous écoutez, vous avez plusieurs manières de pouvoir nous rejoindre. D'abord, par le standard, Karine, qui est appelée Aikikai, c'est ça, par l'équipe précédente, si j'ai bien compris. Karine est au standard pour recevoir tous vos appels. Vous pouvez l'appeler dès maintenant au 0826-300-300, 0826-300-300, si vous vous posez des questions sur la voyance. Si vous avez vécu vous-même un phénomène de voyance, vous nous appelez. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez le mot « Sud », vous laissez un espace, ensuite vous rédigez votre question, votre réaction, je serai votre porte-parole. porte-parole et vous envoyez le tout au 71 200. Nous allons commencer donc avec vous, Marie-Monique Robin, puisque, je le rappelle, votre film Sixième Sens passera sur Arte dans le cadre d'une théma consacrée à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Ce sera le dimanche 17 septembre. D'abord, on se félicite tous autant que nous sommes autour de ce studio et au téléphone qu'il y ait une grande chaîne de télévision française qui consacre une soirée sérieuse à ce genre de phénomène. C'est pas si courant que ça, Marie-Monique Robin. Hein.
Non, c'est pas courant du tout. C'est même exceptionnel, disons.
Oui.
Alors, en ce qui concerne mon film, il a déjà été diffusé en fait sur Canal+, hein, il y a 2 ans.
Oui.
C'était une première, et parce qu'effectivement, quand on est réalisateur comme moi, journaliste, et qu'on propose un film sur ce sujet, c'est pas du tout évident de trouver une chaîne qui le diffuse en France. En
ouais,
tout cas.
Ouais. Alors, le sujet est très casse-gueule, vous venez de le souligner. On a accepté de vous allouer des crédits, j'imagine, de vous dire on va le diffuser parce que vous vous appelez Marie-Monique Robin et que vous avez à votre actif bon nombre de films, de documentaires que je qualifierais de sérieux, de danse, d'épée, qui apportent vraiment quelque chose. Mais pourquoi avez-vous choisi ce sujet ô combien casse-gueule?
Alors, parce que d'abord, j'ai moi-même, au cours de nombreux voyages que j'ai fait donc pour d'autres films dont vous venez de parler, notamment l'Amérique latine, étaient amenés à, tout à fait fortuitement, parce que j'y allais pour autre chose, à rencontrer des chamans en Bolivie, par exemple, ou des voyants à Cuba.
Oui.
Et ça m'avait interpellée parce que, d'abord, j'y étais pas du tout préparée, ça me tombait dessus, et je me disais, c'est quand même très curieux. Bon, après, j'ai découvert, je pense que c'était à travers une lecture, je sais même plus trop comment, en fait, que existait une science qui s'appelle la parapsychologie scientifique, hein, et qu'elle était parfaitement reconnue, notamment aux États-Unis, où elle fait partie depuis 1968-69, je dis ça de mémoire, hein, de l'association, on appelle ça l'American Association for the Advancement of Science, c'est la 3AS, c'est-à-dire l'association qui regroupe toutes les disciplines scientifiques américaines, et au même titre que la physique, que les sciences dites dures, enfin vous voyez.
Et c'est un organe ô combien sérieux et respectable, et respecté aux États-Unis.
Oui, bien sûr, et qui publie une revue de renom, qui est le must en matière de sciences. Et je me suis dit, tiens, c'est très curieux, ça, bon. Et petit à petit, je me suis dit, ça m'intéresse de voir comment les scientifiques abordent ces phénomènes qui font quand même partie de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est ça aussi qui me surprenait beaucoup, finalement, c'est de voir qu'il n'y avait rien en France. Parce que ça, j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas de chaire de parapsychologie en France, ça n'existe pas. Et puis même, quand on est une journaliste dite sérieuse comme moi et qu'on propose un sujet comme ça, on me demande tout de suite si d'un seul coup j'ai rencontré Dieu, vous voyez comment on va. Et donc voilà, je me suis dit, j'aimerais voir comment des scientifiques, des laboratoires, des universités travaillent sur ces phénomènes que l'humanité rapporte depuis la nuit des temps. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il semblerait que l'un des objectifs de la science soit quand même de travailler sur des phénomènes qui touchent les hommes. S'il y en a un qui touche les hommes, enfin, j'ai dit à la télépathie, on en parle depuis tout le temps, on a tous eu des expériences ou entendu parler de des amis qui
nous rapportent des voyances, des choses
comme
ça.
Tout à
bien
fait.
Sûr, oui. Et
donc,
puis,
voilà,
sans parler de la pitié de Delphes, enfin, c'est
sûr. Alors,
des grands
bien
oracles,
sûr.
Etc. Quoi.
Oui, les grands oracles ou nos grands mystiques, pour rester dans la sphère judéo-chrétienne, disons, hein, qui était reconnu pour être parfois voyant, guérisseur, doué de bilocation, donc capable d'être à 2 endroits en même temps. Enfin, vous voyez, bon, tout ça fait partie de, j'allais dire, de notre patrimoine commun, quoi. Enfin,
bien sûr.
Donc voilà. Et donc j'ai commencé à travailler. C'est comme ça que je suis arrivée à Limy. Je crois qu'il y a quelqu'un de Limy, donc j'ai entendu tout à l'heure.
Oui, Bernard Auriol.
Voilà,
oui.
On s'est pas rencontré encore. Ça viendra. Et j'ai rencontré notamment Mario Varvogli.
Oui, qui est le président de l'EMI.
Tout à fait. Ouais. J'ai découvert une bibliothèque énorme. J'ai découvert qu'au début du siècle, on avait des scientifiques en France, des gens sérieux, qui, des psychiatres, des...
Curie, voilà. Camille Flammarion,
Richer, qui ont travaillé là-dessus. Après, puis après, plus rien. Et c'est vrai que, moi, c'est peut-être un petit peu ma nature, j'ai un petit peu tendance à mettre sur des sujets un peu casse-gueule, comme vous dites, parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré Maud, que j'estime énormément et qui m'a beaucoup impressionnée par sa personne, par son savoir-faire. Enfin, et je me suis dit, on va monter un projet, non pas pour montrer que ça existe, vous voyez, parce que ça, il faudrait faire 10 heures. Enfin, vous voyez, plutôt montrer comment les oui. scientifiques travaillent là-dessus.
Oui. Alors, juste avant d'aller plus loin, Marie-Monique Robin, vous ne travaillez pas toute seule. Vous devez avoir des diffuseurs. Enfin, il y a toute une chaîne, évidemment, hein, qui est très...
producteur d'abord, parce que moi, je suis réalisatrice indépendante. Voilà. À l'époque, j'étais déjà freelance, donc il faut...
Donc, un producteur qui va mettre des sous, qui va risquer ses sous, ça coûte cher de faire un film. Ensuite, il faut trouver un diffuseur qui va prendre également entre guillemets le risque de le diffuser, etc. Alors, quelles ont été les différentes réactions quand vous avez dit, voilà, ben, je vous propose ça comme sujet, parce que là, je sens qu'il y a un truc intéressant.
Alors, d'abord, j'avais une clé, enfin, si j'ose dire, parce que dans un premier temps, j'ai fait un livre que j'ai fait avec Mario Varvoglis pour la partie plus scientifique. Moi, je l'ai rédigé, j'ai apporté mon savoir-faire de journaliste.
Aux éditions Duchesne, d'ailleurs.
Tout à fait. Essayer de résumer dans un beau livre, dans le sens que c'est un beau livre, il est illustré, hein, justement, en puisant dans toute cette iconographie magnifique qui justement, témoigne de la permanence de ces phénomènes, hein, aussi bien la télépathie, enfin, tout ce qui concerne les capacités extrasensorielles, ou ce qu'on appelle en termes plus scientifiques, le deuxième volet, la psychokinèse, enfin, l'action de l'esprit sur la matière. Donc, il y a une magnifique iconographie qu'on puisse toutes les religions du monde en parlent, vous voyez. Et puis aussi, je voulais donc dans ce livre montrer qu'on a travaillé là-dessus de manière scientifique.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a monté des expériences avec des protocoles sérieux et qu'on a essayé de mesurer, de répéter, d'appréhender ces phénomènes. Donc j'ai fait d'abord ce livre et c'est vrai que ce livre, quand je me souviens très bien, la première fois j'en ai parlé à un producteur, il m'a dit comment ? Tu t'intéresses à ces espèces de foutaises, c'est une expression. J'ai dit oui, foutaises. Enfin, ouais, il dit, regarde, regarde le livre. Ah ben oui, il est beau le livre. J'ai dit, mais lis le livre, hein, tu verras, il y a des gens sérieux, il y a des physiciens, enfin des gens qui ont travaillé dessus. Mais au départ, c'était vraiment beaucoup de scepticisme. Bon, c'est vrai que ce qui m'a peut-être aidé, comme vous disiez, c'est que j'avais déjà fait autre chose avant, j'avais déjà eu des prix.
Quand même.
Pour être quelqu'un de trop farfelu. Ouais. Heureusement.
Ça vous a ouvert des portes, sinon ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense. Hein.
Tout à fait. Mais il y a eu quand même pas mal de péripéties avec ce film, hein, parce que finalement, ce film a pu se monter grâce à un producteur qui s'appelait Ideal Audience. Je lui rends hommage parce que finalement, il m'a fait confiance.
Oui.
Parce que c'était une aventure folle. Hein. Je dis dans tous les sens du terme, non seulement parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de place pour ce genre d'intérêt, si j'ose dire.
Hein. Oui.
Et aussi, parce que, comme je le disais, il s'agissait de montrer comment la science travaille sur ces phénomènes, donc il fallait trouver des sujets, excusez-moi l'expression, mais et notamment Maud, excuse-moi Maud, mais un sujet qui accepte de rentrer dans cette espèce d'aventure folle, parce qu'il fallait, vous voyez, rendez-vous compte, ce qu'on a fait dans ce film, on a emmené Maud à Chicago, dans un laboratoire d'un neurologue, on lui a mis des électrodes sur la tête pour voir ce qui se passe dans son cerveau quand elle entre en voyance.
Oui.
Ça pouvait foirer totalement. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Foirer
oui.
dans le sens où...
il n'aurait pu rien se produire.
Il n'aurait très bien pu rien se produire.
Bien sûr.
Soit il n'y avait pas de film, ou il y avait un film qui montrait que ça ne marchait pas. Et c'était très difficile d'expliquer que si ça ne marchait pas, peut-être c'est aussi parce que moi j'ai compris en travaillant, j'ai passé peut-être 3 ans à travailler vraiment là-dessus, entre temps j'ai passé à autre chose, mais j'ai compris aussi que c'était très fragile, que ce n'est pas des phénomènes qui se produisent comme ça, on appuie sur un bouton et puis vous voyez.
Évidemment.
Donc, aller expliquer ça à un producteur, oui, mais Maud elle a foiré parce que vous savez, le décalage horaire, le stress, la caméra, je me rappelle, on était dans une toute petite salle avec le neurologue, caméra sur elle, et puis voilà. Donc, je rends d'ailleurs hommage à Maud et d'ailleurs à Robert Gamel aussi, le guérisseur qui nous a accompagnés dans cette aventure, parce qu'ils ont pris un risque énorme.
Oui.
Alors, ils ont accepté de le prendre.
Juste, Marie-Monique Robin, je me retourne vers Maud Christen. Maud Christen, quelle a été votre réaction quand Marie-Monique Robin vous a contacté pour la première fois en vous disant, voilà, j'aimerais vous amener à Chicago, rencontrer ce neurologue et que vous participiez à une expérience, parce que vous aussi, vous vous mettiez en danger également.
En fait, la première fois que j'ai rencontré Marie-Monique, ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai dit à Marie-Monique, et j'ai eu très peur qu'elle pense que j'étais parano, je lui ai dit, vous savez, quand vous allez travailler sur ce sujet, j'ai lui tenu vraiment un discours de parano typique, vous savez, vous allez être très ennuyé, vous allez avoir des gens qui vont vous tourner le dos. Et quand on a terminé de dîner, je me suis dit, bon, elle va rentrer chez elle. Elle va
démoraliser.
Elle va être psychiatrique. Et on n'en parlera plus. Puis au bout de quelques années, Marie-Monique s'est, je crois, rendue compte d'elle-même de ce que j'avais vaguement laissé entendre. Ouais. C'est vrai que dit de l'extérieur, c'est tellement un discours de dingue de dire, oui, vous savez, on tient la vérité, on nous écoute pas. Enfin bon, c'est difficile et pourtant c'est ça. Bon. Donc en fait, quand Marie-Monique m'a proposé ça, moi je salue aussi Marie-Monique et son courage parce que il faut beaucoup de courage pour oser parler de la voyance d'une manière qui ne soit pas « j'y crois pas » et qui ne réduise pas les phénomènes à un phénomène de société. Mmh. Chaque fois qu'on parle de la voyance, c'est pour en parler comme un phénomène de société. Or, c'est un phénomène de société aussi. Mais enfin, au bout du compte, l'intérêt, c'est quand même est-ce que ça existe ou non. C'est quand même la vraie question.
Oui.
Bon, or, c'est une question que les médias n'arrivent pas à traiter sous cet angle. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que dans notre sphère, qui décide de ce qui existe ou non ? C'est le monde scientifique, et c'est normal, parce que nous sommes des occidentaux, rationnels, et tant mieux pour nous. Seulement, comme il n'y a pas d'experts, comme notre société s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'experts en place, ayant un savoir sur ces questions, la place est usurpée par d'autres qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui ne sont pas des experts, et qui enchaînent les uns les autres, sans connaître cette question, en disant tout simplement, ça n'existe pas. Mais ce qui n'est pas une parole de scientifique, c'est une parole d'autorité. Bon. Donc Marie-Monique est une réalisatrice qui a eu le courage d'affronter ce problème et c'est pas rien. Bon. Quand elle m'a proposé de partir à Chicago, moi j'étais absolument d'accord parce qu'en fait, bon, évidemment que c'est un risque énorme. Évidemment que c'est un risque énorme quand on est professionnel, qu'on exerce depuis plus de 15 ans, de s'exposer à ça. Mais je m'étais déjà exposée dans des émissions de télévision. Et j'avais bien vu qu'en multipliant les démonstrations, et pourtant parfois dans des prime time, on n'arrivait jamais à en sortir, parce qu'il y avait toujours des gens qui passaient derrière et disaient « Ah, c'est truqué, etc. C'est infernal !» Bon. Donc, ma démarche à moi, si vous voulez, c'est que je me dis depuis mais des années, où je vois, et il y a probablement moyen de le démontrer, ou si ce que je pense être de la voyance, ce n'est que des effets de sens, c'est-à-dire une espèce de lecture intelligente et intuitive des os, que bien entendu, je ne pense pas. Et je ne pense plus depuis des années, bien qu'au début je l'ai pensé, parce que le voyant, et j'en parlerai tout à l'heure, est normalement le premier à être étonné de ce qu'il fait, en tout cas dans notre culture. J'ai pas le choix. Quand Marie-Monique vient me voir et me propose ça, bien sûr j'ai le choix au niveau humain, mais je dirais presque au niveau moral, j'ai pas le choix. Parce que si vraiment je vois, il faut quand même bien que ça se sache. Pas pour moi, à titre personnel, parce que moi j'ai été médiatisée en 87, j'avais 23 ans. Alors ça fait bien longtemps que je cherche plus de clients. Mais je dirais pour l'humanité, parce qu'en effet, ces questions touchent l'humanité, et que je crois que ces capacités que nous avons tous, que moi j'ai développées probablement plus que d'autres, ces capacités que nous avons toutes font partie de nous, mais complètement, on les intègre complètement, on les utilise sans le savoir, et très probablement elles agissent sur nos relations humaines, sur nos relations affectives, et le fait de ne pas les développer, je dirais que c'est une sorte de... C'est une véritable atrophie. Vous voyez, vivre sans développer ses capacités, c'est exactement comme si demain on décidait qu'en fait, quand on entend un bruit, ben on rêve, alors une société entière se fonderait sur le fait de creuser les tympans des gosses ou de leur boucher les oreilles.
Oui.
C'est insupportable.
Oui. Ouais,
donc
oui.
J'ai pas vraiment le choix dans la mesure où je sais que je produis des phénomènes, je dirais, à un niveau d'intelligibilité qui les rend probants pour les autres, alors il faut le faire. Maintenant, c'est clair, j'ai un souvenir dans une cafétéria. La veille du jour où nous sommes allés chez Norman Dunn, je vois Marie-Monique.
À Chicago,
Dunn,
oui. Ah
ouais. Où Marie-Monique me dit, et dis donc, imagine demain, si t'étais pas en forme. Mais elle l'insinue.
Oui, elle l'insinue
à peine avec un petit brin de nervosité. Oh, rien du tout, juste un petit frisson
bien
là.
Bien sûr, hein, mais je me souviens, moi aussi, j'étais vachement inquiète, voilà. Même. Hein.
Alors, bon, évidemment, je me suis dit, bon, il faut y aller, on verra bien. Avec une espèce de confiance, parce que, malgré tout, et ça c'est quand même quelque chose d'important, dans la mesure où on avait tous envie que ça fonctionne, il faut reconnaître que les capacités psychiques, ça fait aussi partie de ce que la science a découvert, le peu qu'on en a découvert. On ne sait toujours pas comment ça marche, mais on a quand même découvert quelques trucs. Et un des trucs qu'on a découvert, c'est qu'une atmosphère propice au niveau du désir était favorisante pour l'émergence de ces phénomènes.
Ouais,
et bien
ouais.
Entendu, Norman Dunn, il avait envie que ça marche, Marie-Monique Robin, elle avait envie que ça marche, et moi j'avais envie que ça marche.
Ouais.
À partir de ce moment-là, ça commençait à pouvoir être nettement plus possible.
Oui. Alors, Norman Dunn, ce neurologue qui est à Chicago, hein, vous a proposé donc, Maud Christen, je dirais, une expérience d'un schéma tout à fait classique.
Oui.
Hein, c'était des enveloppes, enfin des images. Allez-y. Oui.
En fait, l'idée, c'était pour éviter ce qu'on appelle une contagion télépathique, c'est-à-dire que je ne risque pas de savoir ce qu'il y avait dans l'enveloppe parce que Norman Dunn le savait. Mm-hmm. Marie-Monique, tu m'arrêtes hein, si ça ne te paraît pas juste.
Oui, juste avant que tu expliques l'expérience, oui. Que je veux quand même que les gens comprennent bien, c'est que c'est moi qui ai décidé, enfin, c'est plutôt Norman Dunn, enfin, nous qui avons décidé sans que tu saches exactement ce qui allait se passer, toi.
Ah oui, moi, j'en savais rien.
Voilà.
Oui.
Quelle expérience on allait mener.
D'accord.
Alors, moi, j'avais un problème, je faisais un film, donc je voulais quelque chose qui soit...
Visuel.
Visuel.
Bien sûr.
Mm-hmm. Donc, il m'a expliqué les différentes expériences qu'on pourrait faire.
Mm-hmm.
Donc, il m'a proposé une expérience avec des enveloppes scellées dans laquelle son équipe, lui, savait même pas ce qu'il y avait dedans, mettait des images,
oui.
N'est-ce pas ? Et des enveloppes vraiment fermées. Et c'était ses assistants qui mettaient des images dans ces enveloppes. Et Maud était donc... Donc, censé essayer de voir ce qu'il y avait dans ces enveloppes.
Voilà.
Alors, tu as su, si je me souviens bien, Maud, en arrivant là-bas, ce qu'on allait faire exactement.
Oui, en fait, moi j'étais d'accord parce que je savais ce que Norman Dunn voulait faire au niveau de l'électroencéphalogramme.
Oui, fond, d'ailleurs, en parlant de visuel, Maud Christen, ce petit chapeau avec les capteurs, vous allez à ravir.
Oui, mais d'autres ont
très joli.
C'est un grand classique.
Oui, la photo est super. J'ai revu là quand
il a beaucoup plus.
Il a beaucoup plus.
D'ailleurs, on vous voit dans le film faire un break et manger avec Norman Dunn, son assistant, etc.
Oui.
En gardant toujours le petit chapeau.
Oui, parce que c'est très long à mettre.
Oui, j'imagine. Non, c'est très saillant.
C'est très long à mettre. Puis il y a un autre petit détail, c'est qu'en plus il y a des. On gratte le crâne avec une sorte de pic pour être sûr que le
capteur capte bien, enfin touche bien, d'accord.
Ouais, c'est... Voilà, donc là on est quand même en pleine science-fiction.
Ah, c'est agréable en plus, oui d'accord.
C'est okay. Agréable, donc on n'a pas forcément envie de le refaire.
Voilà, oui, je comprends, oui.
Et donc Norman, lui, bon, il est neurologue, donc il s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Il a travaillé notamment d'ailleurs avec les chamans en Amazonie.
Oui.
Et donc ce qui l'intéressait c'était de voir, donc de placer, si j'ose dire, Maud dans une situation de voyance. Donc, elle essaie de voir ce qu'il y avait dans ses enveloppes scellées, fermées.
Mm-hmm. Et de voir comment son cerveau réagissait.
Voilà, et de voir ce qui se passait dans son cerveau pour voir si ça confirmait ce qu'il avait déjà vu avec des chamans, notamment en Amazonie, qu'elle entrait dans un état spécifique qu'on appelle état modifié de conscience. Et donc, de voir quelles étaient les ondes qu'émettaient ces deux cerveaux, le droit et le gauche. Hein.
Ouais.
Donc, en fait, il va constater dans mon expérience qu'elle rentre véritablement dans un état modifié de conscience où ces deux cerveaux deviennent synchrones, hein, émettent les mêmes ondes.
Oui, oui, oui.
C'est une caractéristique de ces états très spéciaux ou spécifiques. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, c'est ça qu'il voulait voir, ce qui se passait dans son cerveau. Et puis, évidemment, voir aussi, si j'ose dire, ce qu'elle voyait.
Voilà. Oui, oui. Et ça a fonctionné, Maud.
Alors, ça a fonctionné, oui. Ça a parfois fonctionné très très bien, à d'autres fois moins bien.
Ouais.
Mais ça a fonctionné. Ce qui était un petit peu embêtant en fait, c'est que les expériences en question, je vais quand même expliquer quelque chose qu'on voit à l'image et qu'on reverra donc avec plaisir sur Arte, c'est que en fait, je dois définir. Moi, j'ai ma façon de travailler dans ces cas-là, parce qu'en fait, je vais plutôt vous raconter comment moi je le vis de l'intérieur. Donc en fait, on me tend une enveloppe. Que j'essaye de faire pour que je puisse avoir des informations donc totalement extrasensorielles, puisque c'est une enveloppe à bulles, la personne qui me l'attend ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on ne peut pas parler d'une interprétation.
Ouais. Mmh, mmh. Oui, d'accord.
Par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous, vous, sans être voyant, vous pouvez bien entendu donner tout un tas d'informations qui seront justes, mais là on est vraiment dans le néant. Ce que je suis moi obligée de faire pour voir, c'est le vide total en moi. Alors bon, ça j'ai mon truc pour ça, je débranche. Bon. Et après viennent en moi des images et des pensées, mais qui ressemblent à ce que nous avons tous et que nous appelons des souvenirs. C'est-à-dire qu'en fait, se recomposent peu à peu au fond de moi des contenus qui sont à la fois qualitatifs, quantitatifs et qui ressemblent à vos souvenirs. Un petit peu comme si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait hier soir.
Mm-hmm.
Vous aurez probablement une idée de l'endroit où vous étiez. Si vous
oui, oui, des images qui reviennent à l'esprit comme
bon,
ça.
Vous pourrez me dire, bah, tiens, j'étais dans un chinois. Bon. Si je vous demande combien il y avait de gens autour de vous, vous ne savez pas. Mais si je vous demande la salle était claire ou foncée, ça vous saurez.
Oui, bon. Oui, oui.
Donc petit à petit, les choses reviennent et je les requalifie. Alors, ma technique pour ne pas avoir à parler, évidemment, là, de toute façon, parler à qui ? Puisque dans la salle, personne n'est au courant de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ça aussi, c'est très important. Parce que ce que font les mentalistes. Et ça, je crois que c'est important d'en parler, surtout après les numéros qu'on fait Gary Kurtz, que fait Gary Kurtz au Music Hall. Les mentalistes, eux, ont des trucs.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, on en a parlé avec Ranky, qui était avec nous la semaine dernière. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait.
Donc là, il ne s'agit pas de déceler à travers des postures ou des mimiques, il s'agit vraiment d'informations extrasensorielles. Donc ce que je fais, ça monte en moi comme des contenus, et pour ne pas parler, je les écris. Donc, on me voit dans le film, j'ai une feuille de papier, un crayon, je les écris.
Vous les dessinez également.
Des dessins. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, évidemment, au bout du compte, l'enveloppe s'ouvre, et on a eu aussi dans ce film des échecs. Mais ce qui était rigolo, c'est que certains des échecs que nous avons eus, était lié au fait que je ne voyais pas l'image qu'on m'avait mise dans l'enveloppe, mais je voyais.
Comme cible, oui, mais les autres.
Et d'autres, elles sont arrivées. Marie-Monique, tu dois t'en rappeler.
Ah oui, oui, mais je sais très bien. En fait, voilà comment a fait Norman au début. Donc il y avait une image dans l'enveloppe.
Ouais.
Et donc Maud se concentrait et elle dessinait ou elle écrivait, comme elle vient de dire. Et après, il sortait quatre images dans lesquelles il y avait la bonne image et trois autres qui n'avaient rien à voir.
Mm-hmm.
Et il disait maintenant laquelle c'est. Et en fait, c'est complètement fou et ça se répétera quand on arrivera à Édimbourg, à l'université.
Oui, avec les films, ouais, voilà. C'est très
en fait,
drôle.
Et
ouais.
En revoyant, parce que nous on filmait tout, hein.
Oui, oui, oui.
Et en fait, elle voyait parfois, elle voyait non seulement l'image qui était dans l'enveloppe, mais elle voyait aussi les
autres images qui allaient lui être
présentées.
Pour troubler un peu l'affaire, quoi. Pour que, voilà,
voilà puis, il y en avait quatre, et bon, évidemment, en termes de probabilité, il y a une chance sur quatre qu'elle se plante. Excusez-moi l'expression, vous voyez. Mais n'empêche que voilà. Et en fait, en regardant bien ces dessins, parce que quand vous êtes sur place, moi je me faisais toute petite pour pas gêner le caméraman, encore une fois c'était une toute petite pièce, elle avait la caméra sur le nez, enfin bon, voilà. Et donc moi je voyais pas trop ce qu'elle faisait, j'étais pas dans son dos. J'ai tout découvert, enfin, une grande partie en tout cas, à part les trois expériences extrêmement fabuleuses, là tu te souviens, où vraiment t'avais dessiné quasiment l'image, enfin bon.
Ah oui, il y en a une.
Mais moi j'ai découvert sa table de montage. Oui. J'ai dit, mais regarde la monteuse, j'ai dit, mais t'as vu en fait, elle a dessiné l'une des images, qui va lui être présentée, elle voyait aussi, donc elle faisait non seulement de la voyance, mais elle faisait aussi de la précognition, c'est-à-dire qu'elle anticipait déjà sur les images qu'on allait lui montrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme ça devenait trop compliqué, moi j'ai dit à Norman, ça, pour expliquer ça en télé, c'est trop casse-gueule.
Alors là, franchement, là.
Donc, on va simplifier. Tu lui présentes pas d'image après. Tu te rappelles, Maud, on a arrêté au bout de je ne sais plus combien. Elle dessine ce qu'elle voit. Et on passe à une autre, elle dit ce qu'elle voit, et on passe à une autre, et tu lui montres pas quatre images, parce que alors là, c'était excusez-moi, mais c'était ingérable, quoi, pour expliquer
non,
ça qu'elle voit, elle voit, enfin bon.
Vu qu'elle est trop forte, elle devine aussi les quatre autres images, les trois autres images qu'on va lui présenter, pour troubler
pour
un
voir.
Peu. Oui, bah, dresser pour voir, c'est intéressant.
Donc, le problème, c'est que c'est un petit peu comme un trotteur auquel vous demanderiez d'un coup de devenir un galopeur, c'est un peu compliqué.
Oui.
J'ai quand même 20 ans de dressage dans un sens.
Elle voyait ce qu'on a. On appelle les leurs, en fait. Hein,
oui,
oui, oui, tout à fait.
C'est les leurs, voilà.
On va parler, Maud Christen et Marie-Monique Robin, de la deuxième expérience auquel a accepté Maud Christen de se livrer. Là, on ira en Allemagne avec vous, dans un autre laboratoire, et on parlera de cette histoire de film que j'ai trouvée personnellement savoureuse. Vous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser à Maud Christen sur la voyance, à Bernard Auriol, qui est avec nous également, membre de l'Institut Métapsychique International, ou à Marie-Monique Robin, n'hésitez pas, 0826 300 300. Karine est à votre disposition pour recueillir vos témoignages, bien entendu vos réactions. Vous pouvez également nous écrire avec votre portable par SMS. Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre réaction au 71 200 et je me ferai votre porte-parole.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Maud Christen, un premier SMS que nous a envoyé un auditeur de Sud Radio ce soir qui dit « Quand il m'arrive de faire de la voyance, il se sert de cartes, il a une sensation de vertige et de beaucoup de fatigue. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Est-ce que vous sentez vertige, épuisé, fatigue, ça pompe, c'est vraiment ça demande ?
Est-ce que cet auditeur parle de faire de voyance qu'il fait dans un cadre, si je puis dire, professionnel ?
Non.
Pour lui, donc pas face à quelqu'un.
Ouais.
Non. Honnêtement, non. Du tout.
Pas de fatigue ?
Non. Ce qui est extrêmement fatigant, c'est pour ça que je vous posais la question du contexte dans lequel cette voyance était faite. Ce qui est extrêmement fatigant pour moi, en tout cas, c'est de devoir, d'un côté, recevoir ces contenus et de l'autre, de les traduire dans une langue qui soit supportable pour l'autre, intelligible, et c'est de trouver les bons mots pour arriver d'abord vis-à-vis de moi-même à bien clarifier ce que je vois et ce que je sens, et ensuite à trouver le bon langage pour que l'autre en face de moi l'entende. Et c'est des activités qui doivent être synchrones, et ça c'est vraiment très fatigant. Oui. Une consultation par exemple est quelque chose de vraiment très très fatigant,
oui.
Mais très très très. Voilà. Mmh. En revanche, quant à titre personnel, et j'utilise énormément la divination, j'ai une méthode par exemple qui consiste à ouvrir des livres entre guillemets au hasard, bien sûr c'est pas le hasard, et à recueillir des informations, je le fais beaucoup, c'est très très précis, hein. Je peux retrouver des clés, je peux retrouver un papier que j'ai perdu, c'est extrêmement précis.
Ah, c'est bien ça, oui.
Là je suis pas du tout fatiguée, c'est-à-dire que je peux faire ça des heures d'affilée, ça me pose aucune fatigue. En revanche, quand il faut rentrer en connexion ensuite avec l'autre et lui restituer ce que j'ai ressenti,
oui.
C'est une autre histoire.
Voilà.
Maintenant, ça peut-être s'expliquer. Il faudrait... Comment expliquer cette histoire de vertige et de fatigue ? Ce qui peut se passer, c'est comme il y a toujours une légère modification d'état de conscience. Il doit y avoir cette légère modification quand on tire oui. les cartes, mm-hmm. quand on fait n'importe quelle opération de divination. Il faut se demander, par exemple, si c'est... Là, c'est un autre problème, c'est presque plus... médical,
oui.
vous expliquer. C'est un petit peu comme quand vous avez légèrement bu. Quand vous avez légèrement bu, si vous avez des problèmes d'équilibre, ça ne s'arrange pas.
Une sorte d'ivresse, quoi, comme
voilà.
ça, d'accord.
Voilà. Il ouais. faut peut-être regarder, ça le docteur Auriol en parlera mieux que moi, du côté de l'oreille interne.
D'accord, très bien.
Qui, dans un état de conscience modifié, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Auriol.
Bernard Auriol, qu'en pensez-vous ?
Bien, je suis d'accord, oui, c'est-à-dire que l'oreille interne nous situe dans l'espace, et c'est vrai que c'est utilisé par... des mystiques ou effectivement des voyants pour, par exemple, en tournoyant sur eux-mêmes, comme font les derviches tourneurs, pour atteindre un état de conscience modifié, en effet, ce que j'appelle personnellement un éveil paradoxal, c'est-à-dire qui est strictement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est strictement opposé à toutes les caractéristiques du rêve,
mm-hmm.
c'est-à-dire c'est un état d'éveil, mais avec un plus profond repos que le sommeil, alors que le rêve, c'est un état d'activité, avec une perte de, disons, de contrôle, alors que dans l'éveil paradoxal, les états modifiés de conscience utilisables pour la voyance, il est nécessaire qu'il y ait à la fois un désengagement, comme le disait tout à l'heure Maud Christine, c'est-à-dire un désengagement, un vide qui se fait dans l'esprit, c'est-à-dire, en fait, une non-action aussi complète que possible, un repos le plus total possible, et cependant, un maximum de conscience, de vigilance. C'est pour ça que je l'oppose
oui.
au sommeil paradoxal, au rêve.
Et quand on décroche, ça peut provoquer une sorte de vertige ou...
Ça, je pense que ce sont un peu des ratés de la chose. Si
oui, d'accord.
Des effets non recherchés, parallèles, qui sont probables, mais de temps en temps, mais qui ne sont pas indispensables.
Mmh. Maud Christine, Marie-Monique Robin, revenons à ce film donc qui sera projeté, et je le déplore d'ailleurs, je vais envoyer une lettre de protestation à Arte, parce que ce film sera projeté dimanche soir. Or, dimanche soir, je suis à l'antenne, moi. Et ça, c'est très dommageable, je trouve, pour l'émission.
Oh, vous allez
l'enregistrer. Ah ben oui, non, mais les gens vont le regarder, figurez-vous.
Oh, j'espère qu'ils vont le regarder, en plus.
Oui, puis je les invite à le regarder.
Alors, oui, excusez-moi, je n'avais pas bien saisi.
Donc, le problème,
oui.
voilà.
La compétition.
Je fais de la pub pour la télé, alors que moi, je veux que les gens viennent à l'émission, vous voyez, ça va être compliqué. Non, mais il faut absolument regarder cette soirée Théma, ce sera donc dimanche. 17 septembre et votre film donc Marie-Monique Robin passera à 23h. Il y aura toute la soirée qui sera consacrée à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Parlons avant d'aller dans la partie où vous êtes allé avec Maud Christine en Allemagne.
Non, en Écosse.
En Écosse, pardon.
Edinburgh.
Voilà, avec le professeur Maurice, hein, oui. c'est ça.
Heureusement, il est décédé maintenant.
Oui. Parlons de l'expérience que vous avez faite avec Maud Christine,
oui.
Également Joseph McMoneagle
ah, oui.
et Mario Varvoglis, donc,
ah, oui.
qui était à Paris. Alors ça, c'est vraiment
ça.
Un des moments forts du film. Et là, j'avoue que... j'ai vu votre film, c'est là, on en reste scotché quand même.
Ouais. Ben moi aussi, je peux vous dire.
Parce que,
d'abord, parce que je peux me permettre, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors, cette partie-là m'a fait, mais vraiment, m'a stressée, comme je ne peux pas vous imaginer, parce que, donc, il fallait monter un protocole. Donc, voilà, je vais expliquer en quelques mots ce qu'on voulait faire. Hein. Donc, on était dans un premier temps, il y avait deux équipes. Mmh. Une équipe à Paris,
oui,
et une équipe avec Joseph McMoneagle. Donc, j'explique qu'il est en Virginie, aux États-Unis. J'explique en quelques mots qui est Joseph McMoneagle. C'est un type complètement hallucinant.
Oui, oui.
Qui a travaillé 20 ans pour la CIA, les services secrets américains, qui a été recruté comme voyant, ainsi que des confrères à lui. On était en pleine période de guerre froide. Bon. Il faut savoir que, aussi bien, comme je le disais avant, en France, personne ne travaille là-dessus, et personne ne travaille là-dessus dans les années qui nous intéressent, là, c'est donc après la Seconde Guerre mondiale. Mais en revanche, les États-Unis et l'Union soviétique travaillaient énormément là-dessus. Parce que vous imaginez que si, effectivement, il est prouvé que des gens peuvent voir à distance, ce qu'on appelle du remote viewing, voir à distance, vous voyez,
des sites stratégiques,
vous rendez compte que c'est prodigieux pour rentrer, vous voyez, par l'esprit dans des endroits clandestins, stratégiques, où il y a, je ne sais pas, des armes, enfin, vous voyez.
Top secret,
donc,
évidemment.
Top ouais. secret. Donc, le KGB et la CIA ont dépensé énormément d'argent pour faire travailler des voyants. Alors, en l'occurrence, la CIA a dépensé 20 millions de dollars pendant 20 ans, a recruté donc notamment Joseph McMoneagle. Et ils les ont fait travailler, c'est-à-dire ils les ont fait rentrer mentalement dans des lieux.
Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a des documents déclassifiés d'ailleurs de la CIA.
Des documents déclassifiés qu'on peut trouver. Oui, il y a eu une commission d'enquête. Enfin, ça a été présenté au Sénat américain, enfin, etc., etc. Alors tout ça, quand vous dites ça ici, on vous dit mettez complètement ça à profit. Enfin, sauf que les documents sont là. Enfin, ça a même été filmé parce que vous savez qu'aux États-Unis, dans ce cas-là, ces commissions sont filmées.
Oui,
enfin,
oui, 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 oui.
Bon, moi, quand j'ai vérifié tout ça, je me suis dit c'est sérieux. Je vais voir Joseph McMoneagle. Bon. Donc Joseph est en Virginie. Moi, je suis avec Joseph, avec mon équipe.
Oui.
Maud est à Paris.
Mm-hmm.
Nous avons deux autres personnages. D'un côté, Mario Varvoglis, le président de l'IMI, qui est...
Lui va servir de cible, en quelque sorte.
Voilà, je vais expliquer en quoi consistait l'expérience. Et puis quelqu'un de très important que vous avez rencontré déjà la semaine dernière,
oui.
Ranky. Parce que moi, la réalisatrice sérieuse, quand je me retrouve à monter un truc pareil, je me dis... tout le monde va me tomber dessus en disant j'ai bidonné, j'ai triché, tout ça. Donc, mais c'était une prise de tête hallucinante. Donc on s'est dit, il faut prendre quelqu'un. On a choisi Ranky, parce que Ranky, vous savez, est à la fois quelqu'un qui est vraiment...
Un excellent prestidigitateur.
Un excellent prestidigitateur.
Tout à fait.
Et qui est prêt à débusquer tous les...
Les escrocs.
Les escrocs. Et qui est vraiment là-dessus est très clair.
Et qui ne s'est pas gêné pour le faire.
Il ne s'est pas gêné pour le faire. On connaît l'histoire avec le motard.
Le motard masqué dont il nous a parlé la semaine dernière,
bien
évidemment.
Bien sûr. Mais par ailleurs, il est ouvert. Donc je n'ai pas tracé le portrait de Ranky, vous le connaissez.
Oui, il a été notre invité pendant 2 heures la semaine dernière.
J'ai dit à Ranky... On l'a même payé pour ça, c'est-à-dire c'était sa mission.
Oui, oui.
Vous allez me contrôler mon protocole, là, pour bien être témoin, parce qu'il est réputé pour être sérieux, enfin voilà.
Oui, que tout soit bétonné, qu'il n'y ait pas
de... Que tout soit bétonné, qu'on est bien d'accord que moi, je suis en Virginie, que je ne suis pas du tout en rapport avec Paris, je ne sais pas ce qui se passe, enfin, etc., etc., qu'il n'y a pas de coup de fil clandestin, enfin, évidemment, voilà, bon. Alors, l'histoire est la suivante. Mario allait donc tirer de manière aléatoire, c'est-à-dire au hasard, une cible. Ils avaient préparé à l'IMI des enveloppes, avec, je ne sais plus s'il y avait 30 cibles. Alors une cible, je veux dire, la Tour Eiffel, vous voyez.
Oui, oui, le Sacré-Cœur, etc.
Des lieux très, assez proches, enfin, soit à Paris ou en très proche banlieue, qu'ils ont tiré avec une roulette, vous savez, là, au hasard, enveloppe numéro 5, tac. Et voilà l'endroit, pont Alexandre III. Bon. Et Mario s'y rendait. Alors, il faut savoir que cette expérience que nous menions, était en fait un remake d'expériences qui ont été répétées, notamment sur la côte californienne, au Stanford Research Institute, très célèbre pour ses physiciens notamment, et qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a été d'ailleurs, ce sont les scientifiques du Stanford Research Institute qui ont travaillé avec la CIA pendant les 20 ans qu'a duré le programme Stargate. D'accord ?
Ouais,
donc c'est un protocole assez connu. Voilà. Donc Mario, une fois qu'il avait tiré au hasard,
le lieu où il devait se rendre.
Il y allait. Et donc voilà l'expérience. Maud, elle, 2 heures avant qu'on ne tire au hasard l'enveloppe, vous me suivez ?
Oui.
Devait faire de la précognition, c'est-à-dire elle devait se concentrer et essayer de deviner où serait Mario dans 2 heures.
Voilà.
D'accord ? Alors, il y avait une équipe à moi, une autre équipe, parce que moi, je suis pas sainte Marie-Monique, donc je ne suis pas douée de bilocation, je ne pouvais pas être en Virginie et à Paris.
Oui.
Donc j'avais une autre équipe qui filmait Maud, qui
c'est marrant, sous le contrôle de Ranky.
Sous le contrôle de Ranky, qui commençait à décider des trucs, à parler. Évidemment, l'équipe qui filmait ne comprenait rien, parce qu'on savait, enfin, vous voyez, voilà.
Ah oui,
et puis on filmait tout, puis terminé, on voilà. Enfin, voilà. Ensuite, moi, j'étais avec Joseph, Max Monegan, lui devait faire de du remote viewing, de la vision à distance, c'est-à-dire qu'il devait voir au moment X, on avait donc bien calculé, on avait des horloges, vous savez, avec temps universel.
Bien sûr.
Qu'à, je sais plus, je dis n'importe quoi, je m'en souviens plus, à 15h pile, heure demain, on savait que Mario serait sur la cible, et Joseph devait commencer à dessiner et à dire ce qu'il voyait.
Où était Mario Varvoglis? Est-ce que voyait Mario Varvoglis?
Voilà. Ouais. Alors moi j'étais avec Joseph Max Monegan. Et je voyais qu'il parlait, qu'il dessinait, qu'il décidait. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y avait aucun lieu qui me venait à l'esprit, en fait. Hein.
Ouais.
Il dessinait un pont, bon, avec une rivière, là, et puis il dessinait des statues. Enfin,
une statue, une main, un moment,
voilà.
Etc.
À un moment, il dit, Mario, il lève la main, il montre une statue en métal. Enfin, bon, évidemment, on savait pas de quoi il parlait. Moi, je rentre à Paris.
Donc, vous filmez tout ça.
Je filme tout ça.
Et vous ne savez toujours pas où s'est rendu Mario, évidemment.
Non. Pour la dire la vérité, quand tout a été fini,
oui.
Tout fini, c'est-à-dire je ne suis plus en fin de journée,
oui.
Là, j'ai appelé, j'ai dit, mais c'était quoi la cible? Le pont Alexandre III. Et je me suis dit, n'importe quoi, c'est tout foire. Enfin, pour moi, ça n'avait... Enfin, c'était planté, l'expérience. Il y avait un pont, il y avait ça. Et quand j'arrive, parce qu'il a parlé, je sais pas, au moins une heure, Joseph, vous voyez, il était en état de transe, moi j'appelle ça un état de transe, hein, donc il s'est concentré, puis après il parlait. Et bon, c'était en anglais, enfin, vous voyez, il dessinait plein de feuilles, bon, il a fallu qu'on... J'arrive sur ma table de montage, et je me rappellerai toujours, et la monteuse surtout, parce qu'il faut imaginer, quand on est en montage, on a une monteuse qui découvre tout.
Bah oui, qui ne connaît pas le sujet, qui ne connaît pas les rushs, etc., qui le découvre.
Là, le dessin et le... La description de Joseph Max Monegan, c'était sidérant. Vous voyez le pont Alexandre III à Paris? Est-ce que vous le voyez? Vous voyez?
C'est un pont avec beaucoup de lampadaires très sophistiqués de chaque côté, c'est
surtout
ça?
Surtout des grandes statues métalliques, effectivement, il y en a, je ne sais plus combien, 4, hein, n'est-ce pas, Maud, c'est ça, 4.
C'est des statues dorées, en fait, extrêmement...
Oui, c'est ça.
Voilà, ça avait été fait. Il faut bien comprendre une chose, parce qu'après je vais venir à ce qu'a fait Maud. Le pont Alexandre III avait été construit pour l'exposition universelle au 19e siècle, à la fin du... Non, 2900 d'ailleurs, avec le Grand Palais, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Vous voyez le Grand Palais, comment il est, il vient d'être... Bon, et c'est un ensemble.
Avec une immense coupole, le Grand Palais, très joli, etc.
Alors c'est un endroit très compliqué, parce qu'il y a quand même les Invalides, vous allez voir pourquoi je vous dis ça aussi, c'est quand même un endroit qui n'est pas quelconque, quand on sait ce que c'est que l'hôpital des Invalides.
Ouais.
Alors, Joseph Max Monegan, quand vous voyez ce qu'il raconte, ben, il dit effectivement, il y a un pont, alors ça c'est déjà... Il dessine, mais alors, ça c'est hallucinant. Sous le pont d'Alexandre III, il y a effectivement des chemins qui longent la Seine. Hein.
Oui.
Il dit, il y a de l'eau qui passe dans le tunnel.
Il y a le tunnel, il dessine le tunnel. Bon, puis après, il dit, regardez, je vois Mario qui lève la tête et qui montre la statue. C'était exactement... Et moi j'avais les images, parce que bien sûr, quand Mario se promenait sur le lieu, mon équipe le filmait. Hein.
Évidemment.
Et puis, alors, surtout, pour moi, le pompon, vraiment, pour moi, le pompon, le truc incroyable, c'est qu'il avait dessiné un édifice que je n'ai vu que quand je suis allée moi-même sur le pont Alexandre III, qui est l'édifice d'Air France. C'est le bâtiment d'Air France. Pour ceux qui connaissent Paris, ils verront qu'il y a les Invalides et qu'il y a un bâtiment, mais c'est le seul à Paris. C'est un bâtiment avec un toit plat. Il n'y en a pas d'autre à Paris. Plat.
Mmh. Voyez,
avec des arcades. Il avait dessiné cet immeuble-là, mais que vous pouvez... Enfin, il n'y en a pas d'autre. C'est un drôle de bâtiment, parce qu'il est plat, quoi, avec des arcades. Enfin bref, c'était étonnant. Et Maud, de son côté, elle avait décrit... Alors, elle s'était attachée, en fait, c'est ça. Elle s'est attachée à ce qui est le bâtiment qui allait avec le pont Alexandre III, c'est-à-dire le Grand Palais.
Ce qui était bien, c'est que j'avais dit à l'époque qu'il était en rénovation, c'est vrai.
Oui, tout à fait.
Le Grand Palais qui était fermé, parce que moi, après, je suis allée prendre des photos... Quand je suis revenu à Paris, j'allais prendre des photos de tout cet endroit pour voir avec les dessins de Joseph Max Monegan, ce que disait l'un, ce que disait l'autre, vous voyez. Et le Grand Palais était fermé, il y avait partout des barricades, des planches marquées entre la route, tout ça. Elle décrivait, parce que le Grand Palais, c'est comme son nom l'indique, hein, c'était un lieu de réception, de magnifique exposition. Elle décrivait toute l'atmosphère, en fait, du Grand Palais. Voilà. Alors, c'est vrai que cette expérience... Moi, quand j'ai fini de monter ça, j'ai dit, mais on va pas nous croire. On va dire que c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est trop beau, oui, je veux dire. C'est,
oui.
C'est sidérant.
Bah, pour résumer, Maud Christen a vu deux heures avant là où Mario, qui ne savait même pas où il allait aller déjà, s'est rendu.
Ouais.
Et au moment où Mario s'est baladé, Joseph McMonigle, donc Mario se baladait sur le pont Alexandre III à Paris, Joseph McMonigle voyait ce que voyait Mario et le dessinait au fur et à mesure.
Ah oui.
Avouez que quand même, c'est... Je comprends votre surprise. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on le regarde.
Ah oui, bien oui, c'est ce genre de choses. Pour revenir à Joseph McMonigle, je me souviens quand je suis arrivée chez lui, il avait un mur tapissé qu'on voit dans mon film d'ailleurs, de médailles, de diplômes, de je sais pas quoi. Il a été décoré, alors je sais plus comment c'était, de l'ordre du mérite pour avoir réussi plus de 200 missions ayant contribué à la sécurité nationale. Bon, voilà. On est aux États-Unis, c'est-à-dire que non seulement on estime qu'il faut travailler sur ces sujets-là, on alloue des crédits, on crée des postes dans les universités, vous voyez. Mais en plus, donc, on remet l'ordre du mérite, là, je ne sais plus comment s'appelait ça, pour avoir pratiqué son expérience de voyant.
Et si l'armée américaine s'en sert et qu'il a rempli 200 missions, c'est qu'a priori, ça a fonctionné pas mal.
Ah oui, mais les documents déclassifiés, j'en ai reproduit plusieurs dans, le livre, dans mon livre, là, c'est extraordinaire. Enfin, ce qu'il a vu, enfin, c'est fou, quoi.
Oui. Maud Christen, vous n'avez jamais été contacté par, j'allais dire, la CIA ou le KGB. KGB qui n'existe plus maintenant, enfin, ou qui existe sous un autre nom. Mais la DST française vous a jamais contacté, par exemple?
Bah, écoutez, si c'était le cas, ça serait de toute façon de manière...
Vous ne le diriez pas.
Je ne pourrais pas le dire. En revanche, la police est arrivée. Maintenant, mon type de voyance n'est pas d'une très grande efficacité là-dessus. Je l'ai vu, par exemple, dans cette expérience avec Joe McMonigle. C'est-à-dire que... mais il faudrait l'entraîner, simplement. C'est pas à ça que je suis entraînée.
Oui,
Ce qui était intéressant, par exemple, c'est que pour quelqu'un, entre moi et Joe McMonigle, on s'est vraiment bien complété. C'est-à-dire que lui a fait
des dessins
extrêmement précis, type vraiment dessins d'architecte. Enfin, c'est tout à fait surprenant. C'est extraordinaire, les dessins qu'il a fait de précision.
Ben, 20 ans d'armée derrière
voilà,
aussi.
Voilà, 20 ans d'armée.
Aussi.
Donc, c'est vraiment, je dirais, un état d'esprit militaire.
Ouais.
Et moi, j'ai fait un dessin du Grand Palais, mais qui est beaucoup moins beau que ses dessins à lui, évidemment, beaucoup moins précis. Techniquement, en revanche, j'ai fait surgir
l'atmosphère.
Pourquoi le Grand Palais avait été créé, à quoi ça avait servi.
Des robes blondes, de belles soirées,
voilà,
etc.
Et
ça, vous l'avez senti.
Tout l'environnement autour, les jardins, la grande avenue.
Ouais.
J'ai donné quand même beaucoup de détails précis, même, je crois, des choses par rapport à les matières qu'il compose à l'intérieur.
Des matières luxueuses, très riches.
J'ai parlé du dôme que j'ai dessiné, je me rappelle, il y a un petit dessin d'un homme dans un dôme. J'ai dit, ce qui est intéressant, c'est le dôme. Bah oui, au Grand Palais, il vient même d'être restauré.
C'est essentiellement ça.
Entre moi et McMonigle, si on avait fait un duo, là, on pourrait être utile.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà, là, on pourrait être utile. Mais en revanche, quand il s'est arrivé, la police m'a... notamment les photos qui sortent des photos de crimes, etc. Ça, j'ai vu beaucoup dans ma vie. Je peux tout à fait retracer des événements qui, une fois qu'on a attrapé le coupable, les policiers me disent « Ah, c'est formidable, il était exactement comme ça. » Bah oui, mais enfin, en l'occurrence, ça donne ni son adresse ni son numéro de téléphone. Donc, on va pas bien loin non plus, vous voyez. C'est extraordinaire. Après coup... Mais ça n'a aucune utilité concrète, vous voyez, en ce sens, permettre de rechercher quelqu'un. Enfin, en tout cas, mon travail. Maintenant, je sais qu'il y a des radiesthésistes qui, eux, mais c'est autre chose, localisent des gens. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. C'est pas mon truc.
Tandis que c'est le truc de Joseph, parce que comme tu dis, moi, il m'avait expliqué, bon, et c'était un officier des services secrets, militaire de carrière. Pour son expérience, son histoire est assez intéressante, parce qu'il était basé dans une unité militaire en Allemagne. Et en juillet 1970, si je me souviens bien, il sort dîner avec des amis. Quand il est pris de violentes convulsions, il avale sa langue. Et il fait en fait un état. Enfin, il fait
une NDE.
Voilà, tout à fait. Il est déclaré cliniquement mort pendant quelques minutes. Il va faire ce qu'on appelle une expérience de mort imminente.
Voilà, le tunnel, la lumière,
etc.
Et
il se réveille. Bon, je vais un peu vite, mais c'est ça qu'il m'a raconté. Hein. Il se réveille, il voit. Cette expérience, bon, c'est en soi tout un chapitre.
Le processus s'est enclenché à partir de ce moment-là.
Tout à fait.
Ouais.
Et il commençait. Non, il m'a raconté. Hein. Il voyait. Et ça l'embêtait beaucoup parce que c'était un militaire qui n'avait jamais été en contact avec ce genre d'histoire. Et c'était tellement évident qu'il en a parlé autour de lui, quoi. Hein. Et voilà comment il se retrouve donc. Payé par l'armée pour faire ce... Voilà. Mais il a été effectivement entraîné et l'objectif qu'on lui a assigné, c'était de pénétrer mentalement dans des sites clandestins. Enfin,
voilà, et de les dessiner. Et il faisait des dessins très précis de bases soviétiques secrètes qui étaient à des milliers de kilomètres de là où il était.
Tout à fait. Et du coup, Bon, maintenant, il travaille plus pour l'armée, hein, il a créé sa propre entreprise et il fait exactement ce que disait Maud, c'est-à-dire de la prospection à distance pour des archéologues, des groupes industriels et des services de police. Il localise des gens. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il s'est spécialisé là-dessus, si j'ose dire.
Ah oui, complètement. Vous savez, vous qui nous écoutez, vous pouvez poser des questions à Marie-Monique Robin. On vient de parler de Joseph McMoligle, qui est un cas extraordinaire. À Maud Christen, qui est un cas également extraordinaire. 0826-300-300. Vous pouvez nous appeler tout à l'heure à partir de 23h et des brouettes. Vous pourrez poser vos questions directement, faire part de vos témoignages à Maud Christen et au docteur Bernard Auriol, qui est ici présent avec nous. Des questions, si vous avez vécu des phénomènes de voyance, ils y répondront avec grand plaisir. 0826 300 300, ou vous pouvez nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS. Vous tapez le mot sud, ensuite un espace, et ensuite vous envoyez votre réaction, votre question au 71 200.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Marie-Monique Robin, on ne va pas passer en détail tout le film, parce qu'il faut garder quand même quelques moments savoureux concernant les différentes expériences que vous montrez. Je pense notamment au docteur René Péoc avec ses poussins. Une expérience absolument fabuleuse. Là aussi, le pauvre vit des moments difficiles parce qu'il a eu l'outrecuidance de monter des expériences qui marchent en plus concernant les poussins et un générateur aléatoire de mouvements. Donc ça concerne la psychokinèse, c'est-à-dire l'influence que peut avoir l'esprit sur la matière. Là, les gens le découvriront, c'est lors de la soirée sur Arte, dimanche 17 septembre, à partir de 23h. Mais attention, la soirée commence beaucoup plus tôt, hein, aux alentours de 20h30, etc. Il y a plusieurs documentaires qui vont suivre, ne les ratez pas également. Alors, Marie-Monique Robin, parlez-nous de combien de temps après Chicago vous avez dit à Maud Christen, je vous emmène en Écosse.
Non, en fait, on a commencé par l'Écosse.
Ah, vous avez commencé par l'Écosse, d'accord.
On a fait tout d'un coup, on a fait d'abord l'Écosse et ensuite on est allé à Chicago. Bon. Donc l'Écosse, j'y tenais beaucoup parce que j'étais dans une université. Donc je voulais montrer qu'on pouvait travailler dans des universités, là-dessus, pas que des...
À Édimbourg, hein, c'est ça ?
Voilà, Édimbourg, qui est en plus l'une des plus vieilles universités d'Europe, où on a un département de parapsychologie important, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui travaillent.
Financé par l'État, oui.
Évidemment.
Avec l'État public, avec les deniers publics, oui, tout à fait.
Tout à fait, voilà. Donc je trouvais important de montrer que dans des universités tout à fait respectables, comme Édimbourg, on travaille là-dessus. Et à l'époque, c'était donc Robert Morris, qui était un Américain, qui dirigeait le département.
Oui.
Alors, là, en l'occurrence, l'expérience que nous avons montée, il s'agissait donc, on mettait... Maud était dans une pièce toute seule, n'est-ce pas ?
Oui. Sans petit bonnet.
Sans petit bonnet.
Non, là, il n'y avait pas. Il y avait lumière infrarouge.
Voilà.
Maud, franchement, chapeau, parce que vous acceptez tout un tas de contraintes. Lumière infrarouge sur la figure, des capteurs, des machins. Il faut vraiment que vous soyez patiente, hein. Vraiment. Hein.
C'est pas que je suis patiente, c'est que je n'ai pas le choix, je le répète. C'est-à-dire que je crois que la... Comment vous expliquer ? Je me suis fait beaucoup insulter après ce film, hein, ça je le dis.
Ah bon ?
Ouais. Beaucoup insulté. Et ce qui est très rigolo, c'est que je me suis pas fait insulter par des rationalistes. Bon, Justin, je sais pas si Marie-Monique s'en rappelle.
Moi, je m'en souviens.
Bon,
on ne citera pas parce qu'on va pas faire de la pub à ce monsieur.
Voilà, Justin. Mais alors, en revanche, mes confrères, là, ça y est allé. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si...
Mais au contraire, vous travaillez pour eux, si j'ose dire.
Eh ben non, parce que c'est un don de Dieu, et ils sont des élus, et voilà. Et,
ah oui, oui, c'est pas pareil, oui.
Eh ben oui.
Oui. Voilà. Ah bah oui.
Voilà.
Oui, d'accord, je comprends, là.
Donc, n'est pas élu qui veut.
Eh oui.
Quand on appartient à une race supérieure, on n'a absolument pas à se plier à ces abominables contingents
d'accord.
qui ne concernent que le vulgaire, vous voyez ?
Oui, d'accord.
Tout le monde n'est pas la réincarnation d'un grand pharaon non plus, hein ?
Non, voilà. bah non, ma bonne dame, qu'est-ce que...
Bah voilà, alors justement, parce que c'est intéressant, tu dis ça, parce que je me souviens, justement, à Édimbourg, ce que je trouvais bien, c'est pour ça aussi qu'on est allé là-bas, c'est que, en général, ils ne travaillaient pas avec des sujets, comme on dit, doués.
Hein, oui.
Qui est toute une histoire de la parapsychologie, bon, on va pas reprendre tout ça, mais au contraire, eux, ils partaient du principe, bon, si ces phénomènes existent, ils sont, donc n'importe qui peut en être capable, si j'ose dire, hein, et donc ce qui intéresse l'Université d'Édimbourg, c'est de montrer chez le citoyen lambda, d'abord, ce qu'il est capable de faire dans ce domaine, et puis quelles conditions il faut pour qu'il y parvienne, vous voyez. Mm-hmm. Bon, là, en l'occurrence, on avait bien expliqué à Robert Maurice qu'on venait avec Maud, qui était un sujet doué, justement. Hein,
oui, oui.
Mais justement, il travaille avec n'importe qui, vous voyez. Mm-hmm. Des étudiants qui se prêtent aux expériences. Bon, là, en l'occurrence, c'était un protocole qu'ils avaient eux-mêmes monté, avec tous les moyens qui vont avec, des deniers publics, comme vous dites, hein, j'assiste.
Bien
ils
sûr.
Avaient donc un ordinateur qui sélectionnait de manière aléatoire dans une banque audiovisuelle de 100 films, mm-hmm. des films connus, hein, ouais. des fictions, etc.
Oui, des extraits.
Des extraits, voilà. Ouais. Donc, ils avaient monté le logiciel, etc. Donc, Maud était dans sa petite pièce avec ses infrarouges.
Voilà, sur un fauteuil allongé,
voilà,
donc avec une lampe infrarouge braquée voilà. sur elle pour la relaxer. Mm-hmm. Voilà.
Il y avait une autre, dans une autre petite pièce, celle qui menait l'expérience, qui était sur l'ordinateur et qui avait donc lancé le logiciel pour qu'il sélectionne de manière aléatoire un film sur les 100.
Ouais. Mm-hmm.
Et dans une troisième salle, le film passait en boucle, l'extrait de film passait en boucle.
Voilà, sans que Maud le voit, évidemment. Hein, c'est
ah, évidemment.
Voilà,
et
dans une autre salle.
Donc Maud, elle devait à parler à voix haute, c'était enregistré, mm-hmm. et dire ce qu'elle voyait.
Voilà.
Donc c'était ce qu'on appelle de la vision à distance.
Voilà, il fallait qu'elle voie le film qui était projeté sur un écran dans une autre salle complètement hermétique.
Voilà, voilà. Donc elle parlait.
Ouais.
Elle disait tout ce qui lui passait par la tête, hein, c'est pas Maud.
Oui.
Et alors moi, évidemment, on comprenait rien à ce qu'elle disait, parce que moi alors en plus, comment c'était. Ah oui, moi j'étais avec la personne, oui, parce que j'ai traduisé, eux ils ont gardé tout, là, ils voulaient faire ça traduire ça bien. Ensuite, pour bien voir ce qu'elle avait dit. Mais moi, j'étais avec l'assistante qui était sur l'ordinateur. Et parce que j'avais des écouteurs, j'ai entendu ce que disait Maud, donc je lui traduisais en anglais.
D'accord.
À peu près.
Ouais, ouais.
Voilà. Pour qu'elle, même elle entende un petit peu. Elle ne savait pas elle-même, l'assistante, quel film se jouait dans l'autre pièce.
Oui, oui, non, elle l'ignorait. Oui.
Voilà.
Tout le monde l'ignorait. Oui,
tout
oui.
à fait. Mmh. Et moi, mon caméraman passait, parce que j'avais là qu'une caméra, donc c'était un peu compliqué à filmer, du coup, parce qu'il fallait qu'il passe. Bon, il est allé dans la pièce où il y avait le film, il l'a filmé trois fois, c'était toujours le même extrait, bon, ça y est. Et puis après, il restait avec Maud.
Voilà, pour la filmer.
Pour la filmer. Voilà. Et même quand il était dans la pièce, on enregistrait son son au cas où, hein, vous voyez. Bon, vous avez compris le dispositif.
Tout à fait.
Et à la fin, l'ordinateur balancé, si j'ose dire, sur un écran dans la salle où était la petite pièce où était Maud, quatre films.
Voilà.
Il y avait trois leurres, comme on dit, je vous dis tout à l'heure, la même chose, hein. Et le bon film, qui était, comment il s'appelle, le film
The Sea Monster.
Voilà, c'était un monstre qui sort de la mer, film de science-fiction des années 50, sûrement, des années 50-60.
Voilà, avec une espèce de monstre qui sortait de la mer.
En carton-pâte, etc. Enfin, un truc très, très kitsch, mais très amusant.
Voilà. Alors, tenez-vous bien, c'est pareil, moi. J'enregistre tout, mais on ne peut pas se rendre compte de ce que... D'abord, le film, je l'ai vu à la fin, je ne sais plus comment... Enfin, oui, c'est trop difficile. C'est sur la table de montage, où j'écoute tout tranquillement... Je vois, alors Maud, il faut quand même dire sur le moment, donc on lui présente les quatre films, et donc parmi ces quatre films, il y a
j'ai quand même
film.
Reconnu Laurent, que je venais de visionner.
Oui, 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 voilà, elle a reconnu, il fallait donner un pourcentage.
Voilà, elle devait donner, pour les quatre extraits qu'on lui montrait, donc c'était de manière aléatoire, un pourcentage qui correspondait à ce qu'elle avait ressenti.
Et alors 70% pour le film qui avait été effectivement diffusé dans la pièce à côté, et ensuite 40 et 30%, bon, mais elle sentait des trucs, mais bon, c'est, voilà, 40 et 30% moins.
Elle a bien reconnu le bon film.
Tout à fait.
D'ailleurs,
c'était clair.
La scientifique à qui je lui ai dit, c'est bien, elle dit oui, c'est bien, mais ça ne veut rien dire, il faudrait en faire, vous voyez, très prudente, il faudrait faire plein d'expériences.
Oui, 100, 200 pour vraiment en dire.
Voilà, bon. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est sa phase de montage, j'y reviens, j'écoute tout ce qu'elle dit, je vois les quatre films, parce qu'on a filmé les quatre films,
bien sûr.
En fait, je me rends compte dans ce qu'elle dit. Non seulement elle décrit le bon film, mais elle décrit aussi les autres.
Oui.
Mais de manière, il y avait un film, je ne sais même plus le titre, je ne sais même pas si on l'a su, c'était une espèce de film complètement loufoque, où tu avais des gens qui étaient montés sur des espèces de soucoupes volantes, là, et qui traversaient des forêts. Alors elle décrivait des chevaliers montés sur des...
Eh ben c'était la guerre des étoiles, je crois.
C'était la guerre des... Oh, je ne sais plus, oui.
C'était pas la poursuite, je crois, en moto, dans la
guerre
des
étoiles.
Ah oui,
c'était la guerre des étoiles.
C'est ça, oui, oui.
Elle décrivait ça.
Voilà.
Par exemple, j'ai un souvenir que j'ai... Enfin, en fait, sur le coup, la scientifique avait plus l'habitude que moi, parce que moi, il fallait que je gère tout ça en même temps, enfin bref, et je faisais la traduction, tout ça. Elle a déjà dit dans l'interview, je me souviens très bien, que ce qui était surprenant chez moi, c'est qu'elle avait vu le bon film, elle s'est pas trompée, mais aussi qu'elle avait fait donc la précognition, parce qu'en justement, elle voyait, c'est comme le cas de figure de, enfin, ce que je racontais tout à l'heure chez le neurologue, elle voyait à distance, elle voyait le film, enfin, elle voyait des morceaux du film, voilà, et mais elle l'anticipait aussi. Elle faisait de la précognition, elle voyait ce qui allait sortir.
Mm-hmm.
Les trois autres films qui étaient les leurs, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Oui,
voilà. c'est bluffant, hein. Enfin.
Ben Maud, ça rend les choses plus compliquées de travailler avec vous, parce que vous avez décrit effectivement avec précision le film qui était la cible, effectivement. Mais vous avez décrit également, il y avait un extrait où on voyait des gens descendre dans une sorte de mine, comme ça. Il dit oui ou là, je sens des gens descendre dans un sort de tuyau.
C'est très noir.
Voilà. Donc vous aviez tout vu en fait.
Bah, c'est-à-dire que j'étais... en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai fait cette expérience, c'est un des mauvais moments pour moi de ce film, je me suis rendu compte que le Ganzfeld, puisqu'en fait c'est une expérience de Ganzfeld que j'ai fait là...
De vision à distance, hein, c'est ça?
Le Ganzfeld, c'est un protocole qui a été mis au point...
D'accord.
Bon, j'ai pas donné les noms, c'est pas grave. Oui. En tout cas, c'est... je pense que le docteur Harvey pourra en parler mieux, d'ailleurs. C'est un état dans lequel... c'est un système qui a été mis en place, on met des lumières infrarouges, par exemple, on isole sensoriellement, elle met un casque qui envoie un bruit, qui est une espèce de bruit, vous savez, quand vous avez entre deux ondes de radio.
Voilà, un bruit blanc.
Voilà,
c'est ça.
Qui doit favoriser la relaxation, qui est le préalable, comme on disait tout à l'heure, au développement de ses capacités.
D'accord. Alors,
parfois, ses capacités se révèlent dans des situations extrêmes. Donc là, on perd le contrôle totalement, donc on rentre soi-même spontanément dans cet état-là. Mm-hmm. Mais pour faire des expériences, vous voyez bien que si, pour que les capacités puissent se développer, il faut un certain environnement, si j'ose dire. Hein. Il faut recréer ce qu'on a dans la vie.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a ce procédé qui a été mis au point de Ganzfeld, qui est utilisé dans les laboratoires pour relaxer les gens, pour qu'ils puissent laisser monter en eux, si j'ose dire, je m'exprime, moi, vous voyez, leur capacité. Voilà.
Pour moi, c'est pas bon du tout.
C'est-à-dire que ce processus qui permet de faire émerger des capacités de précognition et de clairvoyance chez des sujets,
lambda,
je dirais, non entraînés, en ce qui me concerne, ne m'a pas permis... Par exemple, c'est amusant, quand on voit ce film de science-fiction que je découvre, donc moi, à la fin, je suis réellement effrayée par ce film, qui est parfaitement grotesque, hein, c'est un monstre.
Ah, c'est très kitsch, oui.
Mais il se trouve que quand je l'ai vécu, en fait, le processus de Ganzfeld fait qu'on n'a pas la mise à distance. Et quand je parlais tout à l'heure du fait de travailler avec des photos de gens décédés, assassinés, etc., quand je suis en état de voyance, il s'opère chez moi une véritable... il y a une sorte de castration émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de relation émotionnelle, et autant dans la vie, par exemple, je peux très bien être vraiment émue et choquée par une scène de violence, autant en voyance, dans ma façon de procéder à moi, plus rien ne peut m'atteindre, je sors de là, c'est comme de l'eau qui aurait coulé sur une toile cirée.
Ah oui, vous réussissez à garder de la distance, vraiment.
Ah non, mais absolu. Oui. Quand je suis en voyance, le mécanisme de Ganzfeld m'a mis dans un état où ça ne se passait plus dans ma tête, mais dans mon corps. Parce que le but du Ganzfeld est de faire ressentir ça sur le plan émotionnel. Mm-hmm. Or, le film, c'est quoi? C'est un monstre qui sort de l'eau et qui menace quelqu'un. Et moi, je l'ai réellement vécu comme une agression. Mais comme si je m'étais retrouvée, alors je le dis, il y a quelque chose de colossal devant moi.
Oui, il faut regarder, il faut lever les yeux en l'air pour le...
Je lève les yeux, j'ai peur, il va m'attraper. Enfin bon, j'ai vraiment une sensation d'agression physique. Alors que, bien entendu, ça prouve à quel point le Ganzfeld marche bien. Parce que, normalement... N'importe qui, j'ai un enfant de 10 ans, voit un film comme ça, il se marre. Mais le Ganzfeld permet d'atteindre, je dirais, une espèce de, justement, d'inhibition du mental, ce qui en général empêche le commun des mortels de voir, c'est tout un tas de filtres intellectuels et culturels, et le Ganzfeld annihile ces filtres. Simplement, moi, ces filtres dans mon travail, je les ai maintenus, ce qui ne m'empêche pas de voir, mais je les ai maintenus, et si on me les enlève, alors là, je suis en danger.
Là, vous prenez plein la figure.
Ah oui, j'étais très émue, et ça très comique quand on voit le film, parce que j'ai la bouche ouverte, c'est très drôle.
Oui, sauf pour vous, quand.
Oui, non, mais vu de l'extérieur, il y a un côté complètement... on se demande ce qui m'est arrivé, alors qu'en fait, il ne s'est rien passé. Mais je l'ai vraiment vécu émotionnellement, et j'ai même d'ailleurs encore aujourd'hui parfois des cauchemars de ce film.
Ah bon ?
Ça s'est vraiment imprimé dans ma vie, non pas comme quelque chose que j'ai vu, en sachant que, exerçant depuis 20 ans, j'ai vu des milliers de choses, et qu'aucune n'est en moi, rien de ce que j'ai vu, j'ai parfois vu des choses évidemment dramatiques et terribles, ne m'a affecté.
Oui.
Et ce truc étant rentré, je dirais, par un canal qui n'est pas seulement celui de la voyance, mais celui de l'émotionnel, c'est comme si j'avais été agressée par un extraterrestre.
Évidemment.
C'est très particulier.
Ah oui, oui, oui. Marie-Monique Robin, nous allons bientôt nous quitter, mais avant, à titre de conclusion avec vous, bien entendu, parce qu'après, Maud Christine et le docteur Bernard Auriol vont rester avec nous pour répondre aux questions des auditeurs et aux témoignages. Je rappelle le standard 0826 300 300. Comment êtes-vous sorti de cette aventure? Vous n'êtes pas sorti, j'allais dire indemne, dans le sens, vous êtes sorti différente que quand vous y êtes rentré, évidemment.
Ah oui, 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 bien sûr. Alors, comment vous dire, c'est très difficile. Moi, ça m'a réconcilié avec le monde un peu. Non, c'est vrai, c'est bon. Ça m'a donné envie de moi-même de d'abord de me. J'avais envie de faire. Je me suis dit, je vais faire de la méditation. J'ai enfin, vous voyez, on a envie de, ouais, de voir, ouais, sa vie autrement. Mmh. Mais surtout, moi, je trouve que c'est très rassurant de se dire qu'on peut. On peut communiquer avec des gens sans passer, ah oui, par un email ou je sais pas quoi, vous, oui, voyez. C'est, je trouve ça rassurant sur la vie, quoi. Voilà. Qu'il y a un énorme univers et qu'on est dedans, mais qu'on est relié.
Ouais.
Et qu'il y a des manières de communiquer qui passent pas par la technique. Et je trouve ça formidable. Voilà. Donc c'est une expérience personnelle.
Ça, c'est à titre personnel. Mais votre regard maintenant sur le fait que, vous l'avez souligné, et votre film le souligne fort justement, sur le fait que la science officielle française rebute toujours à s'intéresser à ces phénomènes.
Ça fait terrible. Non, moi, je trouve que c'est un énorme gâchis, d'abord. Je pense notamment aux applications qu'il pourrait y avoir si on s'y intéressait de manière plus... Si on dépensait plus d'énergie et de temps et d'argent... pour étudier réellement ses capacités. Je pense à toutes les applications possibles dans le domaine de la médecine, vous voyez, enfin dans le domaine de la guérison, si j'ose dire, du traitement des maladies.
Mm-hmm.
Je pense qu'on c'est un énorme gâchis qu'on ne s'intéresse pas plus à ça. Ça,
oui,
c'est clair. Ça, c'est... Et c'est toujours le cas, hein, parce que Maud me disait, enfin disait tout à l'heure que ses collègues, même ses collègues, mais moi je sais que encore aujourd'hui, depuis j'ai fait beaucoup d'autres films et d'autres livres d'ailleurs,
oui,
on me dit mais quand même, bon, je suis en train d'écrire mon 7e livre là, et oui, mais alors bon, tout cela ça va, mais celui-là, pourquoi vous avez fait celui-là, là, le 6e sens, comment ça se fait que vous vous intéressez à ça? Enfin, c'est toujours un sujet extrêmement tabou, suspect, c'est... Et je trouve ça vraiment très triste.
Mmh. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse rapide. C'est un sujet que l'on touche du doigt actuellement avec toute mon équipe, parce qu'on est en train de préparer une émission qui va traiter de la mémoire de l'eau et parler des travaux de Jérôme Benveniste.
Vous êtes très courageux.
Oui, on aime bien les trucs un petit peu casse-gueule, comme vous, Marie-Monique Robin. Et donc, on est en train de préparer ce sujet. Et c'est vrai que la science officielle et les mandats d'arrains sont très difficiles à bouger, si je puis me permettre.
Oui, bien sûr. Dans mon film, bon, on raconte pas tout ça dans mon film, mais il y a notamment un médecin qui est très courageux, enfin qui est un spécialiste de l'hôpital Saint-Antoine, qui explique comment...
Oui, exact. Qui fait venir un guérisseur dans son, voilà, dans son service, et ça, franchement...
Oui, et surtout qui dit, oui, puisque il essaie de soigner une maladie qu'on ne soigne pas, malheureusement, et qui est une maladie de la peau extrêmement grave... et dont on meurt, enfin, plus ou moins long terme, hein.
Et
la sclérodermie, elle s'appelle, c'est cette maladie, et il apprend que ce guérisseur, Robert Gamet, qui a donc participé à ce film également, a des capacités pour soigner les gens qui sont atteints de cette maladie, puis il dit, si c'est vrai, il faut monter un protocole pour le mesurer, ses capacités.
Voilà,
et
tout simplement,
il raconte,
oui,
comment, quand vous proposez ça... Heureusement, lui est chef de service dans un hôpital réputé à Paris, donc sa carrière est faite, si j'ose dire. Mais c'est vraiment les foudres qui s'abattent sur vous. Quoi. C'est,
ouais,
comme si vous étiez... c'est quand même extraordinaire. Alors, en même temps, c'est la plus grande hypocrisie, parce que mon travail là-dessus, bon, je ne l'ai pas mis dans le film, mais j'ai découvert que des hôpitaux, dans leur service de grands brûlés, font venir en douce, parce qu'il ne faut surtout pas le dire, des
gens qui font passer le feu.
Voilà, tout à fait,
bien
des
sûr,
gens qui viennent couper le feu,
ouais,
comme on dit. Mais tout ça, c'est en cachette et tout ça, vous voyez, parce qu'il ne faut surtout pas le dire, parce que ce n'est pas sérieux. Donc, on est dans la plus grande hypocrisie là-dessus, avec des gens qui sont, mais d'une violence. Et ça, je comprends que Maud, elle a dû en voir de toutes les couleurs, parce que moi, entre-temps, je suis passée à autre chose, et puis voilà. Mais d'une violence, on pensait tout à l'heure à quelqu'un qu'on ne nommera pas, donc, qui ne connaissent pas le sujet, qui n'ont pas pris le temps de se pencher un quart de seconde sur toutes ces expériences qui ont été menées depuis plus de 100 ans dans le monde, hein, qui sont des expériences sérieuses, qui ne les connaissent pas, qui ne veulent surtout pas les découvrir, qui ne veulent surtout pas emmener eux-mêmes, et qui sont dans une position de, je dirais, c'est irrationnel, quoi. C'est tellement... Je dirais même que c'est suspect, finalement, parce qu'ils sont d'une violence inouïe,
ouais,
vraiment.
Oui. Marie-Monique Robin, en tout cas, merci de nous avoir accordé une heure de votre temps. Un petit peu plus même, parce que 23h10 déjà. Ça a été un vrai plaisir de discuter avec vous. Et puis, je le dis à ceux et celles qui nous écoutent, ne ratez pas la Théma d'Arte, dimanche 17 septembre, avec à 23h donc votre film intitulé Sixième Sens, où là, ils verront Maud Christen se plier avec plaisir aux différentes expériences de différents scientifiques en Écosse, ainsi que aux États-Unis, et ils découvriront également les travaux tout à fait étonnants et surprenants de René Péoc, un monsieur en plus humainement tout à fait adorable. Marie-Monique Robin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, dès que vous avez l'intention de refaire un film sur l'étude scientifique des phénomènes paranormaux, vous nous faites signe, évidemment.
Entendu.
On est prêt à vous donner un coup de main.
Merci.
Au revoir, Marie-Monique Robin. Bonsoir. 0826-300-300, notre standard est à votre disposition. Le docteur Bernard Auriol est avec nous, membre de l'IMI, Institut Métapsychique International. Maud Christen, une des plus grandes voyantes françaises, est en notre compagnie pour répondre également à vos questions concernant les phénomènes de voyance. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS. Vous tapez le mot sud sur votre portable, un espace, et vous envoyez votre question, votre réaction. Nous avons également reçu déjà des témoignages qui nous ont été envoyés au 0826-300-300 dans le courant de la semaine. On va les écouter également, bien entendu.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Alors, on va commencer par un SMS qui nous a été envoyé par Marie de Nîmes et qui s'adresse aussi bien à vous, Maud Christen, qu'à vous, docteur Bernard Auriol. Et ce SMS, finalement, est plein de bon sens, puisque Marie de Nîmes nous dit « Qu'est-ce que ce genre d'expérience dont on a parlé jusqu'à maintenant peut apporter, car on sait que la voyance est une réalité ?» Réponse Bernard Auriol, docteur.
Bon, mais d'abord, vous le savez, on l'a suffisamment dit ce soir, l'adhésion à l'existence des phénomènes parapsychologiques est le cas d'un certain nombre de laboratoires, mais ils ne sont pas la majorité, loin de là.
Et oui.
Non seulement ils ne sont pas la majorité en France, puisqu'il n'y en a pas du tout, mais ils ne sont pas non plus la majorité dans le monde, y compris dans des pays où il existe en effet des laboratoires, comme l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, l'Islande, etc. Donc, en fait, la nécessité de mettre en évidence ces phénomènes est tout à fait claire. Mais après tout, même si on met en évidence ces phénomènes et que tout le monde en soit à un certain moment convaincu, cela n'aura pas un intérêt majeur dans la mesure où on constatera que la foudre existe, par exemple, mais tant qu'on ne sait pas que l'électricité existe, on ne sait pas comment expliquer la foudre.
Oui, mais attendez, au niveau scientifique, on n'en est quand même pas encore au stade de se demander si le phénomène de voyance existe.
Alors,
si. Non, mais là, c'est un peu grave quand
attendez,
même.
J'espère que vous plaisantez quand vous dites ça.
Ça dépend.
Je plaisante pas, Maud Christen. Il y a des phénomènes de voyance qui sont avérés. Vous en êtes une preuve. Mais vous
attendez,
le vivez régulièrement.
Une preuve pour qui? C'est dans la question. Excusez-moi.
Allez-y.
Je vous coupe juste un instant. Mais dans la question de cette dame, elle dit on sait bien. Le problème, c'est qui le ont. C'est les gens qui ont été témoins de ces phénomènes.
Oui.
Moi, ces expériences, par exemple, que je produis et reproduis depuis des années sur tous les médias qui souhaitent monter des expériences qui tiennent la route, je les fais. Bon, je les fais jusqu'au jour où Marie-Monique m'a proposé de le faire dans des labos. On ne pouvait pas aller au-delà de la bonne foi et de la mise en risque.
Oui.
Après ce film, ce qui aurait dû se passer... aurait dû être simple. Normalement, le ministère de la Recherche aurait dû contacter Mario Varvoglis de l'IMI en disant « Voilà, c'est intéressant, on a une journaliste qui a un prix Albert Londres qui s'intéresse à ces questions, le dossier est intéressant, on tente. » Rien du tout. Bon. Donc c'est qui le « on » ? Le « on », c'est les gens qui connaissent la voyance et qui chacun ont été, comment vous expliquer, on croule sous les témoignages. Les gens qui disent « Ah voilà,
moi j'ai
vu un tel, il est formidable, il y a eu ça, il y a eu ci, d'accord ». Mais moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent « Ah ben, pour me convaincre, il faudrait que vous me le montriez à moi. » Est-ce que cette dame ne comprend pas quand elle dit quel est l'intérêt? Bah, c'est que tant qu'on l'a pas démontré à un certain niveau, je dirais, de la société, et c'est ce niveau de la société qui décide de ce qu'est la réalité, ouais, il faudrait le monter à chacun un par un. C'est-à-dire qu'il faudrait convaincre toutes les personnes une par une. Parce que ce que Marie-Monique a entendu après ce film, c'est c'était truqué.
Ah oui.
Tu t'es fait avoir. Pas c'était truqué, tu as été malveillante ou tu as été influencée.
Oui, mais tu t'es fait avoir.
Vous voyez?
Ah, puis, et puis il y a un second point de vue dans cette question, c'est qu'est-ce qui est intéressant de savoir que des phénomènes parapsychologiques existent, ou bien de, supposant qu'ils existent, découvrir quelles sont les lois qui font qu'ils peuvent apparaître. Je pense que c'est la seule question qui est véritablement intéressante d'un point de vue scientifique, de même que la foudre existe, à peu près tout le monde qui a vu un éclair peut se mettre d'accord que ça existe, alors c'est plus fréquent peut-être, c'est plus fort en tout cas et plus convaincant que les phénomènes parapsychologiques, mais en tout cas, quelqu'un qui a vu la foudre sait qu'elle existe. Maintenant, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre du diable? Est-ce que c'est un phénomène électrique? Et si c'est un phénomène électrique, comment l'expliquer? Vous savez que c'est très récent qu'on puisse donner des indications assez précises d'un point de vue scientifique quant à la foudre. Mm. Or, ce phénomène de la foudre existe depuis la nuit des temps, bien sûr.
Ouais.
Donc, l'avancée de la parapsychologie comporte deux chemins, si vous voulez, d'une part démontrer en effet que ça existe de façon à établir un consensus parmi les scientifiques et ce qui permettra de l'étudier beaucoup plus extensivement. Et le deuxième point, qui de mon point de vue le plus important, c'est de découvrir quelles en sont les lois, quels en sont les mécanismes, quelles en sont les conditions, qu'est-ce qui le favorise, qu'est-ce qui au contraire l'empêche, etc., d'une manière qui soit tout à fait reproductible, qui soit acceptée et qui soit enrichissante à tous les points de vue.
Mais là, on frôle le prix Nobel, quoi, parce que là, on n'y est pas encore.
On est très loin du prix Nobel.
Je suis tout à fait d'accord. 0826 300 300, vous savez, vous pouvez nous appeler pour apporter votre témoignage. Mais avant un premier témoignage au standard, on va écouter un témoignage, une question qui nous a été laissée cette semaine sur le répondeur des Aventuriers de l'étrange.
Allô, bonjour, c'est Isabelle de Toulouse. Je voudrais savoir les limites entre la voyance et l'intuition. Parce que parfois, on peut avoir une intuition de quelque chose qui va se passer, ou intuition de quand on voit une personne, une intuition que cette personne a vécu telle ou telle chose dans le passé, ou une intuition sur quelque chose de personnel de la personne. Donc, est-ce qu'il y a une limite entre voyance et intuition?
Je vais commencer par demander votre avis, Maud Christine, sur la limite donc entre intuition et la voyance, d'après vous.
Mais je pense que c'est une limite qui est difficile à poser, dans la mesure où l'intuition est la forme latente, commune et universelle de la clairvoyance. Il y a un auteur qui s'appelle Bertrand Meilleux qui a très bien distingué qu'il y avait plusieurs niveaux de clairvoyance. Ce qu'on appelle la voyance basse, la voyance moyenne, la voyance haute. Or, l'intuition, c'est une forme de voyance basse. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des signaux. Alors, je ne sais pas exactement à quoi cette dame faisait allusion, mais je suis sûre que parmi vos auditeurs, des gens se reconnaîtront dans ce que je vais dire là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire, vous savez, quand je suis en face de quelqu'un, j'ai des sensations physiques, j'ai le plexus qui se noue. Quand le téléphone sonne et que c'est une mauvaise nouvelle, j'ai des cheveux qui se grattent sur la tête avant que j'ai ouvert le téléphone, avant que j'ai décroché le téléphone. Quand je serre la main à quelqu'un et qu'après j'ai la main très très lourde, c'est que la personne va être dangereuse pour moi. Vous avez tout un tas de gens qui établissent comme ça avec leur corps une espèce de relation où leur corps devient, je dirais, une sorte de premier support. Bon, c'est une forme d'intuition. Parce que leur corps réagit à un contact direct, la main de quelqu'un. Là, on peut dire que c'est de la psychologie, on a perçu quelque chose. Mais en revanche, quand vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête chaque fois qu'un coup de fil désagréable arrive, le téléphone sonne de la même façon quand un coup de fil est agréable ou désagréable.
Exact.
Et ça, c'est une forme d'intuition. Ouais. Le corps est, à mon sens, le premier support de divination. Hein. Écoutez, Marie-Monique parlait de méditation, écoutez ce qui se passe dans le corps. C'est extrêmement important pour développer son intuition. Et c'est vrai, quand on fait faire de la méditation ou de la relaxation à des sujets non doués, le tout à chacun, très rapidement, développe des capacités. C'est tout à fait... c'est vraiment latent. Et l'intuition, c'est la forme latente. Tout le monde a eu un jour une super proposition de travail, par exemple, moi je vois ça dans mon métier très couramment, quelqu'un vient me voir, écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai une super proposition, je le sens pas, qu'est-ce que vous en pensez? Puis bien souvent, ben, moi je le sens pas non plus. Qu'est-ce qui s'avère 6 mois plus tard, ben, la société qui faisait ce Pandore est en faillite. Bon. La personne auquel on fait cette proposition un jour n'a aucune raison rationnelle, étant recrutée par un cabinet de chasse de tête de haut niveau pour une société qui marche bien, d'imaginer le pourquoi ça va pas marcher.
Mais objectivement, tout est bon, quoi.
Tout est bon.
Mais il y a un truc.
Oui.
Ouais.
Et ça, c'est l'intuition. Alors en revanche, ce qui est dangereux dans l'intuition, je dirais pour répondre à cette auditrice, c'est que la différence qu'il y a, bah, c'est peut-être la capacité qu'on a à raccrocher un contenu qu'on a eu par l'intuition et un contenu qu'on a eu par la voyance. Et bien souvent dans notre culture, ce que les gens appellent l'intuition, manque de bol, c'est leur désir. C'est-à-dire que je suis sûre que mon voisin d'à côté est amoureux de moi. Ben oui, mais lui, pas. Vous voyez, bon. Et bien souvent, l'intuition, dans le, est parfois aussi, pour beaucoup de gens, un outil qui légitime... C'est le parfait outil pour dire je le crois et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. En revanche, la voyance peut assez facilement, j'ai envie de dire, se prouver. Vous voyez, moi, quand on me dit, et je l'entends souvent, je développe des capacités de clairvoyance, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas à moi de savoir si quelqu'un est voyant ou pas voyant, mais en revanche, on peut faire des expériences. Et autant, il est difficile si j'ai une intuition sur cette situation, c'est-à-dire mon voisin d'à côté est amoureux de moi, c'est une situation qui va être difficile de vérifier parce que les intuitions viennent spontanément. Hein. Autant si j'ai par exemple la voyance d'un lieu, si je fais une précognition sur mon lieu de vacances, bah, rien m'empêche de prendre un papier, un crayon et de dessiner ce que je crois que je vais trouver là-bas, à condition que ce soit pas l'hôtel que j'ai déjà vu en photo.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc on peut beaucoup plus facilement vérifier, vous voyez. Mais l'intuition et la voyance, c'est la même chose, simplement c'est une question de niveau.
D'accord. Bernard Auriol, qu'en pensez-vous?
Oui, je dirais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Maud-Christine, avec ce complément, c'est que l'intuition, évidemment, a un statut également philosophique ou mathématique, c'est-à-dire que on appelle aussi intuition en philosophie quelque chose qui est tellement évident qu'il n'a pas à être démontré. Et d'ailleurs, quand on parle d'intuition au sens où vous venez de le dire, où c'est le désir, par exemple, ou la peur qui engendre une soi-disant connaissance, ça peut prendre l'aspect d'une évidence complète, alors que ça peut être tout à fait erroné. Par ailleurs, l'intuition, en effet, coagule en elle des données qui sont du domaine de la parapsychologie. Vous avez fait allusion au coup de téléphone, c'est une forme, évidemment, de précognition, mais qui entre dans le champ de l'intuition, bien sûr. De même, l'intuition, ça peut être le cold reading, la façon de voir l'autre se comporter, de comprendre à sa façon d'être habillé ou à ses mimiques ou à son écriture ou à un tas de signes.
Oui, mais là, ce n'est pas de la voyance, là, du tout. C'est de la des signaux que l'on emmagasine de manière inconsciente, quoi.
Tout à fait.
D'accord.
Et je pense que l'intuition est faite d'un ensemble, si vous voulez, de signes implicites comme cela, et également de phénomènes éventuellement d'ordre parapsychologique. Mais c'est un mélange de tout ça.
Oui.
Si je peux juste ajouter justement ce que vient de dire le docteur Yol, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment là où on fait la différence. Une intuition, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il n'y ait pas une base sensorielle, sauf dans le cas du téléphone. Et je me demande si l'intuition, pour certaines personnes, c'est pas simplement d'avoir une espèce d'analyse extraordinairement rapide de signaux sensoriels.
Et
là, on revient sur le mentalisme
peu.
En revanche, la voyance, la clairvoyance et la précognition, il n'y a pas de support matériel. C'est zéro support matériel, sensoriel. L'information ne peut pas passer par des canaux sensoriels, et on en est sûr.
Et on le sent au plus profond de soi comme étant évident et vrai.
Ah mais d'abord, on le sent comme étant évident et vrai, et surtout, je vais être simple, si vous venez me voir et je vous dis vous avez mal à l'estomac, bon, j'ai envie de dire, un bon médecin de campagne, il voit quelqu'un, il peut lui dire vous avez mal à l'estomac. C'est pas forcément de la clairvoyance. En revanche, si je vous vois, vous, que j'ai pas la photo de votre mère, et je vous dis votre mère a mal à l'estomac, là c'est de la voyance.
Ben oui, on est d'accord.
On est d'accord.
On est complètement d'accord. 0826-300-300, notre standard est à votre disposition. Karine attend vos appels, vos réactions, vos témoignages. Si vous avez été témoin, si vous avez vécu un phénomène de voyance, vous pouvez nous appeler. Par les SMS, vous pouvez intervenir dans cette émission
également Maud Christen est en notre compagnie, le docteur Bernard Auriol également. Vous nous envoyez par SMS, alors le support est simple, vous tapez sud, un espace et ensuite votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
David nous rejoint, bonsoir David.
Bonsoir Louis, bonsoir à vos invités.
Maud Christen et le docteur Bernard Auriol sont en ma compagnie. Alors on vous écoute, vous avez été témoin d'un phénomène de voyance de la part d'une amie.
Oui voilà, une amie donc qui a des talents de voyante. Il y a des échos derrière moi, je ne sais pas ce que c'est.
Non là c'est bon, on vous entend bien, Grégory va essayer de régler ça. Allez-y, on vous écoute. Oui. Alors ça s'est passé quand et comment d'abord?
Alors on parlait déjà d'exorcisme, tout ça, des maisons hantées, puisque cette dame déjà exorcise les maisons hantées.
Ah d'accord.
Voilà. Uh-huh. Et on s'est mis à parler aussi de la maison de mes grands-parents, qui est une maison particulièrement très très calme,
ouais.
Qui a vécu des belles choses. Et alors je parlais d'abord de mon arrière-grand-mère qui avait posé la première pierre de cette maison. Et alors là, mon amie voyante me dit « Ah, je la vois, cette pierre. » Voilà, déjà.
Oui, oui.
Et bon, cette pierre, pour la trouver, je pense qu'il y en a parmi les millions de pierres qui se trouvent sur cette maison, ça va pas être évident à trouver, quoi.
Oui, elle doit être quelque part à la base, mais après, savoir où, voilà. c'est plus compliqué, quoi. Ouais.
Savoir où, ça va être plus compliqué, voilà. Et alors, après, elle m'a dit « Il y a beaucoup de choses qui sont particulières dans cette maison. Déjà, la chambre, avec un escalier qui passe au-dessus. » Qui sert de cachot. Je dis oui, c'est exact.
Ah bon? Oui.
Voilà. Elle me dit il y a une cuisine avec une cheminée. Et puis elle avance. Dans sa tête, elle dit il y a une chambre qui est au fond, qui est une très grande chambre, qui a une cheminée aussi. Et il y a quelque chose à l'extérieur qui est très particulier. C'est qu'il y a un puits. Je crois quelque chose comme ça, qui a une source d'eau. Je dis oui, c'est ça, c'est un puits. Et mes grands-parents s'en servent pour arroser les légumes, tout ça. Elle me dit oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, elle me dit, il y a quelque chose de particulier encore. Le courrier n'est jamais posé dans une boîte aux lettres, puisqu'il n'y a pas de boîte aux lettres. Alors, mets le courrier sur la grille de la porte, quelque chose comme ça, ou sous la porte. Je dis c'est exact. J'étais vraiment étonné.
Et vous ne lui avez jamais parlé auparavant de cette maison de vos grands-parents?
Jamais, ah jamais, jamais, jamais. Elle n'a jamais été dans cet endroit.
Oui.
Alors, ça m'a quand même assez étonné, quoi. Et ensuite, elle m'a dit, à la fin, elle m'a dit, il y a eu deux morts dans cette maison. Ils sont partis de cette maison, quoi.
Oui.
J'ai dit oui, il y a eu mon arrière-grand-père en 77, l'année de deux mois avant ma naissance.
Ouais.
Et l'arrière-grand-mère que j'ai connue. Voilà.
Et qui sont décédés dans cette maison.
Voilà, dans cette maison.
Oui, ah oui.
Et elle m'a dit, je m'arrête là parce que bon, ça me fait peur.
vous avez eu peur quoi à ce moment-là de cette
non,
espèce
C'est elle qui me disait, ça lui faisait peur après de continuer parce que quand il s'agissait de parler de mort tout ça,
oui, oui,
ça
oui.
Commençait déjà à être assez difficile pour elle quoi.
D'accord.
Voilà.
Maud Christen, que pensez-vous de cette visite comme ça à distance?
Si vous voulez, moi dans ce que vous exprimer, je vais vous redemander votre prénom. Excusez-moi.
David, c'est David.
David.
Voilà. David, oui. Dans ce que vous exprimez, il y a des choses que je trouve très intéressantes, qui sont manifestement du domaine de la voyance. Par exemple, le courrier, qui n'est pas posé dans une boîte aux lettres, ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. L'escalier qui passerait au-dessus d'une chambre, j'ai pas bien compris d'ailleurs ce qu'elle a décrit.
Oui, c'est-à-dire que l'escalier du grenier
oui.
se trouve à côté de la chambre. Et alors, comme c'est un escalier qui tourne, qui fait un angle, quoi, l'autre partie de l'escalier passe au-dessus de la chambre. Quoi.
Alors, ouais. Ça, vous voyez, c'est des détails qui, pour moi, laissent imaginer qu'il s'est passé, en effet, quelque chose. Parce que ça, ce sont des détails assez peu courants. Vous voyez, si on... En revanche... dans les contenus que votre ami a révélés, il y a hélas des choses qui pour vous peuvent faire sens mais qui ne convaincraient pas un expert, à mon sens, le docteur Yann dira ce qu'il en pense, parce que ça se passe dans toutes les maisons comme ça. Vous voyez
oui.
Dans une maison à la campagne, il y a une vieille maison, il y a en général toujours un puits.
Oui,
À l'extérieur, voilà. C'est vrai.
À l'extérieur. Mm-hmm. Pratiquement toutes les chambres ont des cheminées pour une bonne et simple raison, c'est qu'on se chauffait comme ça.
Oui, mais il y a il y a qu'une seule chambre qui avait cette cheminée. Et
mais elle a décrit précisément la chambre en question?
Oui, c'était la chambre de mon arrière-grand-mère.
D'accord, donc ça j'avais pas compris.
D'accord.
Voilà, oui.
Mais je pense qu'il y a un mélange, vous voyez, dans les contenus que vous évoquiez, de choses qui sont, à mon sens, assez intéressantes, parce que vraiment on est du côté de la voyance, de la voyance à distance, enfin de la vision à distance. En revanche, il y a d'autres contenus. Le puits, forcément, il y a un puits. Que des gens, par exemple, soient décédés dans une maison.
En revanche, le nombre 2, elle a dit 2 personnes et pas plus. Voilà, elle aurait pu dire 1 ou 3, quoi.
2, ouais. C'est génial. Mais dans une maison de cette période-là, de toute façon, il y a eu des gens décédés.
Oui, forcément.
Oui, voilà, de toute façon, c'est ce que je lui ai confirmé. J'ai dit, oui, il y a eu 2 morts. En effet, il y a eu mon arrière-grand-père, qui est mort en 77, et la grand-mère, qui est morte, en 92.
Oui. Merci beaucoup David pour ce témoignage qui est très très intéressant.
Voilà.
Ah ben écoutez, avec plaisir. À bientôt David.
Je suis très heureux de vous avoir parlé en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.
Voilà, bonne soirée, merci beaucoup.
Bonne soirée, bonne nuit à vous.
0826 300 300, Karine est au standard, vous pouvez continuer à nous appeler pour poser des questions au docteur Bernard Auriol ou à Maud Christine, nous envoyer les SMS. Sud, un espace, votre question ou réaction, vous envoyez ça au 71 200.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Alors, ce SMS, docteur Bernard Auriol et vous, Maud Christine, je l'attendais, évidemment. Ça, c'est systématique dès qu'on ouvre le dossier sur la voyance. C'est Françoise de Tarbes qui nous dit... alors, je suppose que, d'abord, question à Maud Christine et ensuite à vous, docteur Bernard Auriol. Françoise de Tarbes, vous jouez au loto ou au tiercé? Si oui, quel chiffre, Maud? Là,
oui,
eh oui, quand
alors je joue pas au loto ou au tiercé. Il y a des expériences, mais je pense que le docteur Auriol en parlera mieux que moi, qui ont été menées sur des chefs d'entreprise dans les années 70, disant qu'ils avaient des capacités de prédiction plus développées que la moyenne des gens sur les choses économiques. Maintenant, il est assez difficile d'avoir les numéros du loto. Pour la bonne et simple raison qu'il faudrait, comment vous expliquer, autant il est assez facile de visualiser, vous voyez, un décor. Par exemple, vous me demandez où vous allez être dans 3 heures. Je ne vous dis pas qu'à tous les coups je vous le fais, mais quand même, dans un bon nombre de cas, j'arrive à vous le faire. En revanche, visualiser des chiffres, c'est quelque chose qui... Je vous avoue que je ne me suis pas vraiment entraînée à ça, un petit peu. J'ai pas eu des résultats extraordinaires.
Non.
C'était pas inintéressant non plus. Mais franchement, j'en avais 3, j'en avais 4, mais j'avais pas les 6. Hein. Mais en revanche, j'en avais plus que ce que j'aurais dû avoir statistiquement.
D'accord.
Donc, j'ai rapidement laissé tomber, dans la mesure où je me suis rendu compte que ça n'arrivait pas à mobiliser mon attention. Vous voyez ?
Ouais.
En revanche, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible.
Ah, là, je me retourne vers le docteur Bernard Auriol, qui a mené plusieurs expériences. Il est possible, je sais pas, vous l'auriez su, évidemment, si ça s'était produit, de demander à un voyant les numéros du loto ou du tiercé. C'est vrai que c'est un peu le marronnier, hein, la question marronnier à chaque émission sur la voyance.
Le demander est facile, avoir la réponse, et c'est une autre paire de manches, bien entendu. Je pense que j'avais été frappé une fois par une personne à la télévision qui indiquait qu'elle avait par radiesthésie déterminé tous les chiffres du loto et qu'elle avait gagné. Alors, évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps. Est-ce que ceci est reproductible? Est-ce que le fait, par exemple, d'associer des nombres avec des mots ou avec des images pourrait permettre de travailler plus efficacement dans ce domaine. Il y a eu, je pense, une recherche qui avait été faite en Australie sur les numéros qui étaient choisis par les joueurs pour voir si le nombre de gens qui prenait comme numéro des numéros gagnants était plus grand, les numéros gagnants étaient davantage pris que les numéros non gagnants, alors même que
personne
ne serait gagnant.
Oui.
Mais je n'ai pas de...
Rien de probant, quoi.
Je pense qu'il y avait quelque chose de relativement significatif, mais je ne peux pas l'affirmer là parce que je n'ai pas la publication. Bon. J'avais lu ça il y a très longtemps.
Docteur, vous n'êtes pas manifestement le dernier gagnant à l'Euromillion.
Ben, d'autant que je ne joue pas.
Ah oui, non, c'est... Très bien. Maud Christine non plus, bien entendu.
Non, d'autant que je ne joue pas non plus.
Très bien. En revanche, Pierre Massias, qui travaille avec moi, vous le savez, pour construire cette émission, vient de me faire passer un petit papier en disant si des voyants ou des gens veulent essayer, on peut toujours s'entendre, vous nous contacter, on peut toujours s'arranger éventuellement. Nous allons maintenant écouter une question qui a été laissée sur notre standard, le 0826 300 300, dans le courant de la semaine. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous appeler. Toujours à ce standard, Karine est là pour recueillir votre témoignage 0826 300 300 ou encore nous envoyer des SMS sud un espace, vous envoyez votre réaction, votre question, vous envoyez le tout au 71 200. Voici pour commencer la question enregistrée cette semaine.
Bonjour, je m'appelle Yvonne et j'habite Nîmes. Il m'arrive assez souvent de penser spontanément et intensément à quelqu'un, un ami, un parent, peu importe. Alors, j'étais au début de cette expérience très étonnée de recevoir un appel téléphonique de cette personne qui me disait avoir pensé à moi aussi intensément. Alors, cela se produit maintenant assez régulièrement. À présent, maintenant, je reçois très souvent, je pense très souvent à une certaine personne et je suis très étonnée de recevoir encore des appels téléphoniques et la dite personne me dit toujours la même chose. J'ai pensé intensément à toi et je t'appelle. Soit je reçois une lettre, soit on m'appelle. Et ça se produit maintenant assez souvent. Alors j'aimerais savoir si j'ai vraiment l'esprit de télépathie et ce que ça veut dire, est-ce que ça représente. Je vous remercie beaucoup.
Docteur Bernard Auriol, vous qui avez mené des expériences sur la télépathie, alors est-ce que c'est de la télépathie, de la voyance, c'est quoi?
C'est de la télépathie, bien entendu, comme Rupert Sheldrake l'a démontré. Alors évidemment, c'est toujours délicat ces expériences, puisqu'il faut les démontrer une fois, mais il faut les redémontrer plusieurs fois. Et elles ont été reproduites, mais dans certains cas, ça a été positif, dans d'autres moins. En tout cas, le fait que cite cette dame a été vérifié par le... dans des protocoles qui excluaient des explications simples du genre « j'y pense, elle pense à moi, on se téléphone, mais c'est normal, il y a 8 jours qu'on ne s'était pas téléphoné », des choses comme
donc
ça.
Donc les probabilités font que, juste à ce moment-là, voilà. Il est très probable qu'elle appelle ou qu'elle reçoive du courrier de cette personne, voilà, d'accord.
Donc, tout ceci est exclu, évidemment, par le protocole qu'a mis au point Sheldrake, c'est-à-dire qu'on filme les gens, on leur demande de désigner des interlocuteurs, ces interlocuteurs sont tirés, l'un d'entre eux est tiré au sort, qui téléphone, et quand le téléphone sonne, la personne doit
essayer de capter qui c'est.
Voilà, doit dire qui c'est d'après elle, et les statistiques sont très favorables à l'idée de télépathie dans ce genre.
D'accord. Maud Christine, rien à rajouter?
Si, ce qui est formidable, c'est que cette dame vit ses expériences et qu'elle nous demande à nous si elle les vit bien. Or, c'est elle qui le sait et elle voit bien qu'elle les vit.
C'est ça qui
est extraordinaire, c'est ce refoulé culturel qui fait que bien que vivant de manière régulière et certaines des expériences qui sont clairement des expériences de télépathie, il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soit avec en effet des gens qu'elle connaît bien et qu'elle aime bien, parce qu'on sait que les liens affectifs renforcent.
Oui.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle se pose la question. Oui. C'est vraiment ça qui est intéressant. Alors que si on était chez les aborigènes australiens qui communiquent complètement comme ça et qui se donnent des rendez-vous comme ça, la question se poserait même pas. Voilà.
On n'est pas sous la même latitude.
Non,
pas vraiment. 0826 300 300. Olivier nous appelle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'où Olivier?
Je vous appelle du Tarn.
Très bien. Et alors vous nous appelez parce que vous avez vécu des phénomènes de voyance?
Ben oui, en fait des phénomènes de voyance, mais je sais pas trop comment déterminer au niveau exact du vocabulaire ce que j'ai vécu.
Oui.
Donc je vais essayer d'utiliser des termes de spécialiste.
Oui.
Voilà. Moi, en fait, j'appelle parce que, si vous voulez, depuis que j'ai eu ces choses-là, en fait, j'ai beaucoup de mal à vivre. C'est-à-dire que je travaille, j'ai une vie de famille, un enfant, je vis normalement, je côtoie des gens, tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à vivre depuis que j'ai j'ai eu ça dans, comme un marginal dirait, dans une société normale, quoi.
Oui, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un cas, par exemple ?
Eh bien, un cas, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu bon, une expérience amoureuse, on va dire, douloureuse. Mm-hmm. C'était pas très, très bien dans ma peau.
Ouais.
Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide par pendaison.
D'accord.
Donc, je me suis, on va dire, à moitié loupé, puisque j'ai terminé dans le coma, mm-hmm. avec une semi-paralysie faciale qui a duré 3 mois.
Oui.
Et suite à ça, en fait, quand je me suis réveillé de ça, j'avais des flashs comme ça qui venaient, quoi. Alors moi, je peux pas dire, j'ai vu le tunnel, la lumière, des choses comme ça. J'ai même beaucoup de mal à croire à ça, mais bon, j'écoute les gens comme les gens là sont en train de m'écouter.
Oui.
Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que j'avais des flashs vraiment très précis. Par exemple, quelque chose qui, bon, voilà, sans égo, puisque là, on est à la radio, donc ma tête, on la voit pas, donc je peux y aller.
Oui.
À peu près 3 heures avant que, aux informations, on parle des tours du World Trade Center, j'étais à peu près endormi. J'étais chez un ami, donc j'étais seul, il m'avait laissé l'appartement, et en fait, j'ai eu comme un rêve, comme une vision, et je voyais des tours flamber. Voilà, donc ça, c'est déjà le plus gros qui m'est arrivé, quoi.
Ça a été très clair dans votre esprit, ça.
Ça a été très très clair, très très clair. Donc après, j'ai instinctivement allumé la télé,
ouais.
Et j'ai vu les informations. Donc déjà, ça a été le premier gros choc pour moi. Et ensuite, le second, ça a été, bon, suite à ça, mon accident, tout ça, j'allais pas très bien, je suis allé me reposer dans une clinique psychiatrique.
Oui.
Donc j'en ai parlé à mon psychiatre, je lui dis, voilà, il m'arrive ça et ça, donc je suis barre, je fais quelque chose pour moi. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais assis à une table, en train de manger pour les repas, comme eux, qui se passent.
Mm-hmm.
Une infirmière arrive avec un jeune de 20-25 ans que je n'avais jamais vu.
Oui.
Et en fait, je le vois arriver, il s'assoit à la table devant moi, et d'un coup, c'est comme une espèce de montée qui s'est passée, je l'ai regardé, et je lui ai dit, toi, t'as eu un accident, je vois de l'eau, je vois de la musique, et je vois un chinois, et tu dois te méfier de lui. Donc, il a levé la tête, on était quand même dans un milieu pas très appropice pour ce genre de choses, où quand même, il y a des gens qui sont vraiment attaqués sévèrement,
ouais.
Et il m'a dit, mais on se connaît, je lui ai dit non. Il m'a dit, ben ouais, c'est à Montpellier, donc j'étais hospitalisé à la Colombière. Et donc il m'a dit, non, effectivement, ouais, j'étais à la dune, en boîte de nuit, j'étais avec un gars, mais c'est pas un chinois, qu'on appelle le chinois. Et je suis sorti, et en fait, j'ai eu un accident, je suis parti dans une petite rivière avec la voiture. Voilà. Donc je vais essayer d'être bref jusqu'à ça, mais depuis, j'ai souvent des flashs comme ça, assez puissants.
Et donc, ça, après, vous le vivez mal?
Ben, honnêtement, ouais, je le vis mal parce que je suis très très réceptif, donc j'entendais parler tout à l'heure d'intuition et d'analyse, donc je me suis vachement penché dessus après. Ouais, je suis allé voir un professeur à Montpellier qui s'appelle Segui, qui est un grand neurologiste assez connu. Donc on a fait un électroencéphalo. Au début de cette histoire, j'avais une irritation au lobe contour pariétal gauche. Et puis un an après, au départ, j'étais parti pour être à Dépakine jusqu'à la fin de ma vie. Un an après, j'avais plus rien. Bon, alors je rejoins ce que disait la dame tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de méditation sur soi-même et sur son corps, aller un petit peu à l'intérieur. Et donc, après, j'avais un tracé complètement plat. On a fait des scanners, tout allait bien, mais les flashs continuaient. Voilà.
Ouais. Donc, alors là, je crois que, si vous permettez juste, Olivier, un instant, je crois que le docteur Bernard Auriol peut vous apporter quelques éléments de réponse, et plutôt rassurant, docteur.
Ben, écoutez, je trouve que votre chemin, évidemment, est intéressant, puisque vous avez vécu ces expériences qui sont, pour certaines, très clairement télépathiques, sans en être perturbé plus que ça. Et je pense que, évidemment, quand vous dites un électroencéphalogramme plat, vous voulez dire sans doute un électroencéphalogramme normal, parce que
un
électroencéphalogramme plat, ça veut dire qu'on est à peu près mort, si vous voulez. Donc c'était certainement pas le cas.
Voilà, c'est ça, oui. Mais si vous voulez, comme je suis pas très très érudit...
Non, mais simplement, je voulais simplement mettre au point ce mot, le plat.
D'accord,
oui. Maud.
C'est de la voyance, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous trouvez inquiétant, en fait? Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans, exactement?
Eh ben, écoutez, ça, je peux pas le dire à la radio, parce que je pourrais pas assumer quelque chose comme ça vis-à-vis de gens qui seraient, fragiles, comme moi je l'ai été à une époque. Mais j'ai eu d'autres visions beaucoup plus sévères au niveau des événements politiques qui pourraient se passer dans notre pays et un petit peu ailleurs.
Oui.
Et depuis, je vis très très mal parce que, voilà, quoi, je sais, en tout cas, je crois savoir ou avoir vu ce qui est arrivé. Et j'ai beaucoup de mal à continuer à vivre normalement.
Alors évidemment, la difficulté... Oui.
Non, non, je vous en prie, docteur.
La difficulté dans ce que vous nous annoncez, c'est que le fait que vous ayez eu des intuitions et des phénomènes de télépathie ou de voyance tout à fait clairs ne signifie pas que toute perception intuitive que vous pouvez avoir est de nature parapsychologique, si vous voulez. Mm. Puisque, comme on le disait tout à l'heure à propos de l'intuition, il y a nécessairement en nous une confusion par moment entre des connaissances et des craintes ou des désirs.
Et des angoisses qui peuvent remonter et se manifester comme étant des perceptions, que l'on pourrait prendre pour des perceptions en tout cas.
Exactement, exactement. Oui. Donc ce qui ne veut pas dire que vos intuitions sont erronées, mais ça ne veut pas. Mais je vous conseille de ne pas y accorder
une trop grande importance.
Un critère de certitude, si vous voulez. Ce sont des possibilités. Comme vous les décrivez comme tout à fait catastrophiques, j'espère que mon explication actuelle est la bonne, c'est-à-dire que,
ouais, ouais, ouais.
qu'il ne s'agit pas de perception de ce qui va se passer. Et en tout cas, on ne peut pas en être sûr, ni même vous, si vous voulez. Même si vous en êtes sûr, ça ne veut pas dire que c'est sûr.
Ouais. Maud Christine, dans votre métier, dans votre profession, comment faites-vous pour couper justement ces possibles interférences de votre vécu, de vos angoisses, de vos craintes, de vos joies, etc., qui peuvent peut-être parasiter, entre guillemets, vos voyances?
Déjà, au départ, je commence toujours mon entretien par un test où je dois parler précisément de la situation présente et passée,
oui, oui.
sans que la personne n'ait rien dit d'autre que son prénom et sa date de naissance. Dans bien des cas, et ça va peut-être rassurer le monsieur qui nous écoute...
Oui, c'est Olivier, oui.
Pour Olivier, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé encore cette semaine de raconter à quelqu'un une vie qui était vraiment, vraiment pas la sienne. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je ne saurais pas vous dire. Je raconte quand même l'histoire parce qu'elle est drôle. Un jour, je vois une dame qui oui. travaille dans une poste et en banlieue parisienne.
Oui,
et
oui.
je lui décris, je lui dis, vous avez un rapport avec des chevaux? Non, j'ai dit, c'est bizarre.
Bon.
Le Texas, j'ai dit, truc, c'est bizarre, de la roche rouge. Vraiment rien, vous n'avez pas prévu un voyage. Non, non, j'ai dit, écoutez, madame, je ne capte pas. Et puis, je lui dis, c'est marrant quand même. Je veux une vue, il y a eu beaucoup d'actions. Il me dit, écoutez, non, je vous assure. Bon, ça virait... je dirais en deux minutes, c'est bouclé. C'est une fausse piste. Mais en revanche, si on me laissait continuer sur cette fausse piste, je pourrais très bien continuer. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que quand on est à côté, on ne le fait pas. Et
d'accord.
moi, j'avais
ouais,
vraiment
ouais,
des
ouais.
images qui étaient... Et si cette dame, par exemple, avait été malveillante et avait eu envie de s'amuser un peu, elle aurait très bien pu me dire oui, oui, absolument, j'habite aux États-Unis. Et j'aurais continué ce que j'étais en train de raconter. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ben, je vais vous le dire. La dame s'en va et j'allume la télé. Et là, je vois la rue vers l'or.
Excellent.
Vous ne la connaissiez pas celle-là?
Non.
Elle est
très jolie. Ah oui.
Donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tout simplement mon propre futur, c'est-à-dire ce que j'allais faire une fois que la dame allait
oui,
partir.
Oui. Excellent.
Donc, je ne suis pas branchée sur rien, parce qu'en général, même quand on est branché complètement à côté, c'est pas sur rien, mais sur quelque chose oui. qui ne sert à rien et qui n'a aucun lien avec la personne.
C'est très farceur, c'est amusant.
C'est d'ailleurs une des questions en parapsychologie. Comme vous le disiez tout à l'heure, moi, il est vrai que très souvent, les phénomènes de télépathie ou de précognition ou de voyance sont liés à des contenus émotionnels, à un lien particulier qu'on a avec quelqu'un. Et de temps en temps, mais ce n'est pas extrêmement rare en fait, on peut avoir, enfin il y a des gens qui ont des cas spontanés de précognition ou de voyance ou de télépathie qui se rapportent à des phénomènes, à des spectacles, à des événements qui ne les touchent absolument pas, qui les concernent extrêmement peu et par rapport à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un... La parapsychologie est pleine de mystères, bien entendu, par définition, mais ça n'est un du point de vue de la rationalité, si on peut en introduire dans la parapsychologie, qui est de se demander comment se fait-il que ce ne soit pas constant, que les phénomènes de lien affectif et d'impact émotionnel, ce n'est pas constant qu'ils soient toujours présents. Mais...
Mmh. Ouais.
C'est une question qu'il faudrait approfondir, effectivement.
Maud Christen et le docteur Bernard Auriol sont en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, Karine est au standard, vous êtes très nombreux, alors ne vous inquiétez pas s'il faut patienter un peu avant que Karine puisse vous répondre. Christelle est en notre compagnie, bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'où?
De Castelldoat, Pyrénées Atlantiques.
Castelldoat et Pyrénées Atlantiques. Le Pays Basque donc.
Oui, oh, le Béarn.
Oh, excusez-moi, oula, ouh, pardon. Bon, Christelle, vous avez vécu ou vous vivez vous-même des phénomènes de voyance?
Oui, enfin, je ne sais pas si ça peut s'appeler de la voyance, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a eu un décès dans mes proches, ou même des personnes que je connais comme ça, qui vont mourir, je le ressens.
C'est-à-dire, ça se traduit de quelle manière?
Eh bien, je ressens une profonde tristesse. En ayant la conviction qu'une personne va mourir. Par exemple, ça a commencé quand j'étais adolescente, quand ma grand-mère est décédée, si vous voulez, à l'âge de 15 ans.
Oui.
Je me suis dit, demain, elle sera morte. Un an après, peut-être, j'ai dit après mon oncle, qui n'était pas malade, rien du tout. J'ai dit, il va avoir une mort demain. Et ma mère, elle avait la trouille. À chaque fois que je disais, il va avoir une mort. Elle disait toujours, c'est pas moi, je dis non, t'inquiète pas, c'est pas toi, mais il va avoir une mort demain, on va nous annoncer une mort, et à chaque fois ça se produisait.
Et vous le ressentez longtemps à l'avance?
Non, la veille, logiquement.
D'accord.
La veille, même mon mari, je l'ai senti en 1985, et je me rappelle, il y a un beau-frère qui vient me voir et qui me dit, il va bien, il est sauvé, il va très bien, et j'ai dit à ma mère, je me rappelle le même soir, j'ai dit non, demain il sera mort, maman, tu verras, il sera mort, et effectivement, le matin, il est mort dans la nuit.
Et alors, des fois, si j'ai bien compris, vous sentez qui va mourir, ou alors vous sentez qu'il va y avoir un décès, mais vous ne savez pas qui?
Non, je ne sais pas qui. Par contre, j'avais fréquenté un garçon en 1984. Là, j'ai vu sa mort. J'ai vu qu'il se mettait la carabine dans la bouche, un revolver, je sais pas quoi, mais enfin, une arme dans la bouche, et qu'il se tirait une balle. Et ça s'est produit le 4 mai 1984. Et j'étais à 20 km du lieu où il se tuait.
Ouais.
Et jamais il m'avait parlé de suicide ou quoi que ce soit. Hein. Jamais, jamais, jamais.
Et alors, là, vous nous parlez d'événements dramatiques, donc des décès de vos proches.
Bonjour.
Mais est-ce que vous avez des prémonitions pour d'autres choses plus joyeuses, peut-être?
Non.
Jamais?
Non, non. C'est la tristesse.
À chaque fois que vous avez une prémonition, ça concerne l'issue fatale de quelqu'un, quoi.
De quelqu'un, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Maud Christen.
Écoutez, votre témoignage, Christelle, est très intéressant. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit, voilà, ça c'est un truc que je vois à chaque fois. C'est une espèce de spécialisation étrange.
Oui.
Alors,
qui est très ciblée que sur un cas précis,
oui,
le décès.
Oui, et j'ai plusieurs de mes clients que je connais depuis 20 ans qui ont cette capacité. Comme vous, ont une vie, une famille, des enfants,
oui.
Et qui se réveillent un matin en pensant à leurs collègues ou à leurs voisins et qui disent, voilà, demain, il va être mort. Donc, il semblerait qu'il y ait... Alors, je vais quand même vous poser une question, c'est est-ce que vous auriez eu des deuils enfants, indépendamment de cette grand-mère? Marquez, vous étiez très jeune.
Je n'ai pas tellement compris votre question.
En fait, est-ce que quand vous étiez petite fille,
oui,
vous auriez été victime d'un deuil qui vous ait beaucoup marqué? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez perdu quelqu'un enfant et que ce départ ait été une sorte de cataclysme pour vous? Est-ce que vous aviez, par exemple, un lien très fort avec votre grand-mère?
Mon arrière-grand-mère, oui. Oui, je l'aimais beaucoup. Oui, parce que j'ai vécu avec elle 5 ans, peut-être.
D'accord. Donc, en fait, vous aimiez vraiment très fort votre grand-mère.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que quand elle est partie, ça a été quelque chose de très, très douloureux pour vous?
Non, elle me manquait beaucoup. Je me souviens, j'allais au cimetière. Enfin, c'était mon lieu à moi, si vous voulez, le cimetière, devant la tombe, à lui parler. J'ai fait ça quelques semaines, d'ailleurs. Et puis, c'est tout.
Oui, mais c'est quand même assez fort. Parce qu'il semblerait que quand on est exposé à un deuil brutal, mais ça, je pense que le docteur Auriol nous expliquera plus de choses que moi à dire, ça semblerait développer ses capacités. Il y avait un très, très grand voyant qui s'appelait Gérard Croiset, qui, lui, était spécialisé dans le fait de retrouver des noyés. Et sur le plan personnel, il avait eu une expérience limite de la noyade.
D'accord, ouais. C'est ce qui avait enclenché ce processus,
oui,
en quelque sorte.
Oui.
Docteur Bernard Auriol.
Alors, bien entendu, les explications que vous donnez sont d'orientation psychanalytique. Elles sont tout à fait plausible, évidemment, par rapport à des phénomènes de spécialisation comme celui-ci. Il y a la prédiction de la mort, dans ce cas, c'est la prédiction de la mort de quelqu'un d'autre, et encore, on ne sait pas de qui. Mais il existe, dans la littérature hagiographique, c'est-à-dire la vie des saints, des saints catholiques, mais aussi bien des saints dans d'autres religions, il est dit que certains de ces saints pouvaient prédire le jour où eux-mêmes mourraient, ce qui est quand même un peu différent.
Oui.
Et de fait,
mais là, c'est plutôt une preuve de grande élévation, paraît-il, non ? Enfin, dans ce cadre-là.
Alors, j'ai étudié personnellement ces saints qui ont. Enfin, j'ai fait des statistiques sur les saints qui ont prédit leur propre mort. J'ai fait ces statistiques avec une religieuse dominicaine qui m'a beaucoup aidé. Et on a découvert que cette capacité des saints de prédire leur propre mort était répartie un peu sur tous les siècles, etc. Mais alors, il y a quelques phénomènes un peu curieux. Par exemple, les martyrs, ceux qui sont morts de mort violente en raison de leur foi et qui sont des saints à cause de cela, eh bien, aucun des martyrs répertoriés dans les bollandistes que nous avons épluchés n'a prédit sa propre mort. Alors qu'énormément d'autres saints qui sont morts pour des raisons autres que le martyr prédisaient leur propre mort. Donc on a fait des comparaisons entre les saints qui ont prédit leur mort et les saints qui n'ont pas prédit leur mort. Alors évidemment, les saints qui ont prédit leur mort, c'était souvent des gens qui étaient malades, ils ont prédit qu'ils allaient mourir.
Comme
vous le comprenez, la géographe, c'est-à-dire celui qui écrit la vie du saint, il admire beaucoup le personnage dont il parle, donc
évidemment,
il a tendance à tirer vers le miracle quelquefois des choses qui sont peut-être
de l'ordre du bon sens, tout simplement.
De l'ordre du bon sens.
Oui.
Mais il est certains cas où, par exemple, le saint a fait marquer sur le bois de son lit une date qui était la date de sa mort, par exemple.
Ouais. Vous voyez, ouais,
on a vu des choses comme ça.
Nous allons conclure avec deux SMS. Je suis désolé parce qu'il va falloir aller vraiment vite pour. Il nous reste que 3-4 petites minutes. J'ai même droit à 5 minutes, me dit mon réalisateur, si on grappille un petit peu. Un SMS de Charles de Saint-Gilles-du-Gard, Maude, qui est pour vous, qui vous demande si vous avez eu des flashs sans que vous ayez à vous concentrer dans une soirée, dans un lieu public, concernant une personne totalement inconnue.
Alors ça m'arrivait il y a très longtemps, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quand même été un petit peu obligée de me pencher sur la chose. Depuis que j'exerce et surtout depuis que je m'entraîne, j'ai pas honte d'employer ce mot-là, ça m'arrive plus, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir vraiment maintenant un système on et off. En revanche, même quand je suis en off...
C'est-à-dire que quand vous coupez le robinet,
voilà,
tac,
quand
là,
je coupe
c'est
le robinet,
fini.
Si quelque chose, par exemple... Pour répondre à ce monsieur, il y a 3 semaines de ça, une de mes amies était dans la rue et elle voulait revenir vers sa voiture. Et il n'était pas spécialement tard, il était 11h du soir. Et je lui ai dit non, je t'y ramène. Elle me dit, écoute, c'est inutile. J'ai dit non, j'y tiens. Alors qu'il n'était pas tard, que ce n'était pas un quartier difficile.
Ouais.
Et en fait, au moment où nous sommes montés dans ma voiture pour la ramener à sa voiture... est sorti d'un immeuble un homme armé qui en poursuivait un autre et dans une immense violence, enfin, c'était une bagarre mais enfin très 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 violente, un autre homme est enfin sorti, enfin le trottoir s'est transformé vraiment en un lieu extrêmement dangereux. Alors il n'a absolument pas dit que cet ami aurait été touché par quoi que ce soit, n'empêche que c'était vraiment une bonne idée qu'elle monte dans ma voiture parce qu'avec la violence qui s'est produit dans cette poursuite, elle aurait été prise là-dedans, bon, elle était par terre. Et c'était une toute petite rue, hein, donc en vrai, trois personnes qui déferlent sur un trottoir armé, etc., qui se battent, vous pouvez pas faire grand-chose.
Non.
Bon, donc ça, c'est des choses qui m'arrivent encore. En revanche, avoir des flashs comme ça, déjà, non, parce que je vous dis, je coupe, mais c'est comme si c'était toujours une espèce de truc de vigilance.
Il ne fonctionne pas à tous les coups.
C'est un peu comme la télé aux États-Unis, elle est dans toutes les pièces. On ne choisit pas forcément de monter le son, mais si on entend une émission qui est intéressante, ben on ne se gêne pas.
Ah
voilà.
D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. Merci en tout cas, Maude Christine, de nous avoir accompagnés une nouvelle fois dans ces Aventuriers de l'étrange, y avoir répondu à ceux et celles qui nous ont envoyé des SMS et qui nous ont fait la gentillesse de nous appeler au au 0826 300 300. Je vous souhaite une bonne nuit, Maud Christine.
Excellente nuit à vous et merci également de votre invitation.
C'était avec grand plaisir.
J'aime beaucoup votre émission.
Merci.
C'est le bonheur de pouvoir s'exprimer librement.
Merci, c'est très gentil à vous. Et puis, on vous retrouve donc dans le film Sixième Sens de Marie-Monique Robin sur Arte le dimanche 17 septembre lors de cette soirée théma consacrée à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Merci Maud Christine. Au revoir.
Bonne soirée.
À bientôt. Docteur Bernard Auriol, merci de votre présence.
Merci à vous.
Et merci de nous avoir amené vos lumières. À bientôt dans les aventuriers de l'étrange, bien sûr.
Mais oui.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Che Silorio Massarini soutiendrait d'une force.
Mille excuses encore pour vous tous qui nous avez appelés et on n'a pas pu vous passer à l'antenne. On va consacrer une autre émission à votre demande, à la voyance et à répondre surtout à vous qui vivez ces phénomènes de voyance plus ou moins bien, en vous posant évidemment toutes les questions légitimes qu'on est en droit de se poser quand on vit ce genre de phénomène. Nous allons la programmer très prochainement. En revanche, nous avons dans nos cartons quelques émissions où nous avons besoin de vos témoignages, notamment pour une émission concernant Lourdes. Si jamais vous avez vécu quelque chose de particulier à Lourdes, si vous êtes allé à Lourdes ou quelqu'un de votre entourage qui a vécu quelque chose en étant allé à Lourdes pour guérir, eh bien écoutez, votre témoignage nous appelle, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Si quelqu'un est allé également ou si vous-même vous êtes allé au cimetière de l'Angèle sur la tombe du père Giacomo qui a des talent, paraît-il, de guérison, eh bien, votre témoignage nous intéresse également. Demain, nous nous retrouverons à partir de 22h30, car il va y avoir un match qui va se terminer dans ces eaux-là, 22h30, 22h35, pour parler cette fois-ci d'OVNI, et nous ferons un petit peu le tour de notre planète, puisque nous aurons un spécialiste ufologue, journaliste québécois qui sera en notre compagnie, qui nous racontera des cas d'observation d'OVNI au Québec. Nous aurons également un ufologue belge qui nous parlera de cas d'observation d'OVNI évidemment en Belgique. Et enfin, pour compléter le tableau, nous irons faire un tour du côté des Vosges pour écouter les cas rapportés par un ufologue français. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez réécouter cette émission à partir de la semaine prochaine sur le site sudradio.fr. C'est le système podcast. Vous pouvez également télécharger sur internet à partir de notre site sudradio.fr toutes les émissions qui ont précédé celle-ci. Si vous en avez raté, allez-y. Il y a les fiches concernant toutes les émissions. Vous choisissez celle qui vous plaît et vous allez pouvoir la télécharger sur votre iPod, comme disent les jeunes, sur votre lecteur MP3 ou encore l'écouter tranquillement sur votre ordinateur. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission. Merci à Karine qui est au standard. Et à Pierre Macias qui m'offre, comme chaque semaine, un précieux coup de main. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout à demain.